Bonjour, je suis Steve.
Salut, moi c'est Mig.
Et moi c'est Oné Bunny.
Et vous écoutez Comic City. C'est notre 20e podcast. Podcast de fin de mois donc consacré à DC et à la librairie. On a pas mal de titres à voir, donc on va pas s'attarder. On va commencer tout de suite avec le Trinity numéro 3. Ça contenait les épisodes, enfin les demi-épisodes Trinity 15 à 21. Donc tous ces épisodes sont écrits par Kurt Busiek, dessinés par Matt Begley et ancrés par Art Tibbert. Alors, par quoi commencer? On a déjà la Trinité qui arrive enfin à savoir qui les a, on va dire, piégés.
Ou réunis. Il était grand temps, quand même.
Bah, oui et non, parce que, enfin, moi, je sais pas, enfin, vu que c'est une série en 52, je me dis que, bah, même si ça mettait un peu plus longtemps que ça, voilà.
Quoi. Ouais, non, enfin, moi, ce que j'ai eu peur, en fait, au début de la série, c'est que, durant tout le long de la série, ça allait être la Trinité contre la Trinité Noire, quoi, la Dark Trinity, ou je sais pas comment ils l'appellent en anglais, d'ailleurs.
Il n'y a pas de...
Ah d'accord. Parce que je crois qu'en français, il me semble que c'était la Trinity Noire ou la Trinity...
Je l'ai peut-être raté alors, mais je crois pas.
Bon, quoi qu'il en soit, je pensais que ça allait être, tu vois, que de la baston entre Superman, Batman et Wonder Woman face aux trois autres. Et donc là, il se passe quand même un truc en plein milieu de l'histoire, enfin en plein milieu de ce numéro, qui m'a surpris. C'était pas du tout comme ça que je le voyais, donc c'était plutôt une bonne surprise ce numéro-là.
Mig?
Non, moi, en tout cas, ce numéro de DC Trinity, là, je l'ai trouvé mieux que les autres. Les autres, j'ai trouvé ça un peu, pas chiant, mais bon, un peu lent.
Bah voilà, oui, c'est ça.
Là, au moins, il y a quelque chose de surprenant qui se passe. Et au moins, je sais pas, il y a plein de petites perles à l'intérieur, on va dire. Je sais pas, retrouver Lois Lane, par exemple, en présentatrice qui parle mal des super-héros et tout ça. Il y a Alfred en archéologue qui trouve des trucs sur la Trinité, tout ça, c'est plein de petits trucs, je trouve, qui sont vraiment excellents.
C'est pas Alfred, c'est Freddy.
Oui, excuse-moi.
Ça, c'est un truc qui m'a fait rire.
Ouais.
Donc, c'est plein de petits trucs comme ça que je trouve excellents. C'est-à-dire que, pour une fois, il n'y a pas les persos principaux et pour moi, je trouve ça encore meilleur.
On a donc une version pervertie du monde. Alors, au début, c'est vrai qu'on se demande est-ce qu'ils sont passés sur une autre Terre, est-ce que ça va faire appel à tout le multivers, etc. Et en fait, on se rend compte petit à petit que c'est notre monde qui est... Enfin, notre monde, façon de parler. Donc, c'est le monde d'essai qui est changé en profondeur. Et donc, le seul qui arrive à se souvenir que quelque chose n'est pas normal, c'est Firestorm.
Voilà. C'est pas le pirate fantôme, ou je sais plus comment il s'appelait dans Identity Crisis, dans Crisis on Infinite Earths, c'est Firestorm, cette fois-ci. Il y a toujours un qui se rappelle, au fait.
Là, au moins, l'explication sort pas de n'importe quoi. C'est juste qu'il était pas du tout dans la bonne dimension, quoi.
Donc, ouais.
La rigueur, ça se tient, quoi.
Ouais.
On voit les différences, mais c'est pas vraiment le seul à se rappeler, puisque les humains ont quand même tendance.
Ils ont des flashs.
Ouais, voilà.
On va dire. Sans jeu de mots. Hein.
Oh, je l'avais pas vu celui-là.
Non, rien qu'avec je crois que c'est une statue de Davy Crockett, je crois, à un moment.
C'est ouais, un Indien quelconque.
Mais à la place, il y avait la statue de Superman, puis il y a certaines personnes qui lèvent les yeux et croient voir ça, puis après ça change. Donc c'est plein de petits trucs, je trouve, qui sont vraiment sympathiques à lire.
Ah, puis bon, on a l'explication du pourquoi il y a certaines personnes qui ont des flashs, quoi. Parce qu'on pourrait se dire, comme par hasard, ils ont des flashs, etc. Et en fait, on comprend bien. C'est vrai que tout est bien amené. Moi, c'est ce que je disais à Mig juste avant qu'on enregistre, c'est que, je sais pas, c'est peut-être la lecture en trade... Enfin, en tout cas, en format trade qui m'a dérangé peut-être un peu plus que le reste, le fait de lire les épisodes à la suite comme ça, j'aurais peut-être pris un peu plus de temps pour les lire, j'aurais peut-être un peu plus apprécié. Je sais pas.
Sûrement. En tout cas, moi, j'ai préféré ces numéros-là aux précédents.
Ah, moi, complètement. Hein. De toute façon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que avant, je pensais que ça allait être vraiment une série... En fait, je voyais pas le but, tu vois, je voyais pas où ça allait. Je me disais que ça allait encore être que des combats tout le temps. Et là, non, ça prend un tournant intéressant.
Et encore, inattendu. On n'est pas à la moitié encore. Hein.
Ouais, donc ça présage, ça augure de bonnes choses pour la suite.
Bah, faut voir, si on reste dans cette version du monde différente, un peu comme House of M par exemple, Jusqu'au numéro 52, ça risque d'être un peu long, par contre.
Bah, tout dépend comment on s'est fait.
Oui,
Puis
voilà,
les
c'est
idées
ça.
qu'ils m'ont apportées, puis le déroulement de l'histoire. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti.
Bon, bah, je crois que...
Enfin, le changement a lieu... Où ça? Alors, attends, je regarde par rapport aux épisodes originaux. Donc,
18.
C'est à partir du 18,
enfin,
ouais.
C'est à la fin du 17, et début du 18 que ça change.
Ouais. Donc oui, effectivement, il reste quand même matière à faire encore, à avoir pas mal encore de retournements de situation. Bon, voilà. C'est peut-être la bonne surprise du mois chez DC, en tout cas.
Puis bon, on a quand même aussi la dernière révélation qui est que cette trinité noire, puisqu'apparemment c'est comme ça qu'il l'appelle en français, n'est pas complète, puisque s'agissait pas de Despero, mais simplement de Kanjaro qui s'était déguisé.
Ça, c'était la bonne surprise aussi.
Donc là, ça change tout, quoi, puisque du coup, on comprend mieux pourquoi le sort n'est pas complet et pourquoi la transformation de cette terre n'a pas été achevée, quoi.
Ouais.
Donc on verra ce que ça va changer en fait par rapport aux trois, vu qu'il y en a un de la Trinité du côté mauvais, enfin en tout cas de cette nouvelle Trinité qui n'est pas le bon. Est-ce que ça va pas nous faire changer un de la Trinité de la JLA? Ça laisse plein
Peut-être.
d'interrogations, quoi. Puis bon,
En tout cas, ça laisse plein de portes ouvertes à un peu tout là.
puis
C'est ça qui est bien.
On a aussi quand même la révélation de qui est ce fameux Enigma.
Donc c'était pas le Sphinx, hein.
Mais bon, voilà, enfin c'est pas mal de petits trucs comme ça. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses.
Et oui, enfin moi l'interrogation que j'ai toujours par rapport à ce genre de série, c'est est-ce que ça aura des répercussions sur les autres séries classiques de l'univers DC, ou est-ce que ça va rester vraiment, tu vois, à part Trinity? Est-ce qu'il y aura des répercussions à la longue, quoi, sur la...
Ben, je pense qu'il va y avoir une répercussion, en tout cas sur les trois, parce que ben, avant Trinity, ils s'entendaient vraiment plus, et je pense que le fait d'être réunis comme ça aura la répercussion simplement de les comment dire, de faire qu'ils soient un peu plus ensemble, quoi.
Ouais. Ça fait une sorte de petite thérapie de couple.
Ouais, voilà.
Ouais, triothérapie, on va dire.
Pour moi, je vois ça comme ça. Hein.
Ouais. Bon, enfin, après, on verra, hein, s'il y a vraiment des matières à avoir des répercussions plus importantes. J'espère qu'elles seront conservées par les scénaristes suivants sur Superman, Batman et Wonder Woman.
Ben, ouais, enfin, c'est toujours pareil, quoi. Ça, c'est difficile à déterminer.
En même temps, tu vois, j'ai pas l'impression qu'aux États-Unis actuellement, il y ait des histoires en rapport avec ce qui s'est passé dans Trinity. Puisque Trinity est terminé, hein, il me semble.
Oui. Mais pour le moment, non. Mais ça s'expliquera d'ici quelques mois. Pour nous en France, mais dans un avenir proche, qui sait?
Ouais, bah oui.
Oui, je crois que tu vois ce que je veux dire maintenant.
Ouais, je pense savoir, mais bon, nous ne dirons rien.
Voilà.
Voilà.
Ok, bon, bah je crois que, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Trinity.
Non, bon, c'est bon.
Bien, bah on va passer au Final Crisis de ce mois-ci. Donc c'est le DC Universe numéro 15, hors série numéro 15. Le premier épisode, c'est le Final Crisis Submit. Scénario de Grant Morrison, dessin de Matthew Clark, ancrage de Don Ho, Rob Hunter et Norm Rapmund. Donc on a le monde qui est en proie à l'équation d'antivie, et la résistance, enfin on voit un petit bout de la résistance par le biais de Black Lightning, qui continue de distribuer un Daily Planet imprimé par des résistants cachés. Et on a surtout la rencontre avec Tattooed Man. Il y a pas mal de matière, en fait, hein, dans cet épisode.
Le problème, moi, quand j'ai abordé ce numéro-là, je me suis dit, tiens, j'ai dû louper un numéro avant. Est-ce que j'ai lu celui d'il y a 2 mois, là, le hors-série Final Crisis? Parce que j'ai l'impression que d'un seul coup, tout va super vite. Enfin, ils sont vraiment dans le feu de l'action, c'est-à-dire ils affrontent les... je sais plus quel est leur nom, là, les espèces de cavaliers... sur les chiens là.
Ah bah alors là maintenant.
Je sais
les
même plus.
Alliés.
Les Justifiers.
Ouais, en français c'est encore autre chose, mais bon. Quoi qu'il en soit, tu vois, là on est vraiment dans le feu de l'action, alors que les deux numéros précédents, tu vois, les choses se mettaient en place et j'avais même du mal à voir où ça allait. Et là d'un seul coup, on est vraiment dans la baston, on nous dit qu'il y a déjà plein de héros qui sont tombés au combat. Et moi je l'avais pas vu comme ça, il y a plein de trucs que j'avais loupé. Donc là, il y a quelques petites piqûres de rappel au cours des 3 numéros. Et voilà, enfin, moi, j'ai eu l'impression vraiment qu'on avait loupé énormément de choses.
Déjà,
je sais pas si vous avez l'impression.
Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'entre Final Crisis 3 et Final Crisis 4, il y a eu un mois où il n'y a pas eu du tout de numéro. C'était volontaire de la part de Grant Morrison pour justement faire une espèce d'ellipse sur tout ce basculement du monde.
Ouais.
Donc c'est pour ça quoi. Et Submit, enfin là au niveau de l'ordre, c'est plutôt bien respecté au niveau de l'ordre de parution, donc on n'a pas trop à s'inquiéter de ce côté-là.
Mais par contre, est-ce qu'on a loupé des choses
Ah
sur...
du tout. Non, non,
Non,
non.
je crois que ça va vite d'un coup, surtout. C'est vraiment pour montrer que ça va super vite toute l'infection de l'équation, là.
C'était volontaire, parce que finalement ça aurait été ni plus ni moins qu'une grosse baston géante, donc il n'y avait peut-être pas forcément plus d'intérêt que ça à montrer la chose.
D'accord. Donc a priori, là, on a tous les numéros correspondants à Final Crisis.
Oui, bah, le seul truc qui nous reste encore à sortir, puisque tout le reste est prévu, c'est Final Crisis Revelations, et à mon avis, ils le sortiront sûrement pas.
Et Legion of the Three Worlds, non?
Bah, ça, c'est avec Rogue's Revenge, et ce sera publié en janvier ou février dans un big box.
Ah, tant mieux, d'accord, ok. C'est une bonne nouvelle, donc.
Donc voilà, non, non, mais non, franchement, il nous manque rien. Parce que après le mois prochain, ce sera. Enfin, le prochain numéro, ce sera le Final Crisis 5. Il y aura aussi le Superman Beyond numéro 1 et Final Crisis Secret Files. On verra s'ils nous publient en 3D et qu'ils nous le vendent avec les lunettes.
Ah, c'était celui-là qui était sorti en 3D avec les lunettes, d'accord.
Donc non, non, pour ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire au niveau parution, à part le fait qu'il manque Revelations. Il le publie bien dans l'ordre et tout, donc bon, ça reste compréhensible. C'est vrai que expliquer peut-être. Alors je sais pas si ça a été fait le travail dans l'édito. En même temps, il y a peu de chances que ce soit fait, connaissant les éditos de Panini. Mais expliquer le fait qu'il y avait quand même un mois sans rien et que c'était volontaire, comme si l'histoire continuait pendant ce mois-ci, sauf qu'on n'avait pas le
Ah,
numéro, ça
je
aurait
ne crois
peut-être
pas
été pas
qu'il
mal.
l'ait. Non, je ne crois pas qu'il l'ait dit ça.
Puis moi, je lis jamais les éditos, donc
Mais
ça c'est fait.
Mais bon, alors ça doit venir de la manière de raconter de Morrison, parce que moi j'ai vraiment eu l'impression, tu vois, qu'il me manquait des éléments.
C'est fait pour.
Qu'il y avait des choses que j'avais pas vues, ou que. Enfin.
Après, je trouve que la manière de le faire est discutable, c'est certain. Moi, je suis content qu'on n'ait pas assisté à cette grosse baston, parce que si c'est pour voir un numéro ou deux où tous les héros tombent, après tout, autant nous faire l'ellipse. Mais bon, après, c'est vrai que nous plonger au cœur de l'action comme ça, c'était peut-être un peu trop. Une petite
Bon, c'est
page
un
de
peu
ré.
déstabilisant, mais c'est pas non plus
Ouais, je
bah,
pense une page de
complètement
récap là
déconcertant
aurait
en
été
fait.
une bonne page de récap aurait été nécessaire, je pense. Pour au moins nous expliquer ce qui s'était passé pendant l'ellipse.
Écoute, moi je crois que j'étais plus perdu le mois passé, ou il y a 2 mois, je me rappelle plus si c'est bimestriel ou pas.
2 mois, ouais.
J'étais plus perdu il y a 2 mois que maintenant. Là j'ai plutôt l'impression que j'étais un peu plus dans l'histoire. Et je sais pas, non, au contraire, moi je me suis tout directement plongé dedans. Donc j'ai pas eu de sensation d'être perdu comme d'habitude, on va dire.
D'accord. Bon bah c'est
Tu vois,
déjà
pour une
bien.
fois, j'ai
Ouais.
pas galéré. Et au contraire, pour une fois, tu vois, j'ai bien aimé, parce qu'il y avait un méchant en vedette.
Tattooed Man?
Ouais. J'aime beaucoup ce perso, hein.
Je me doutais qu'il te plairait.
Je sais pas, c'est son côté du genre, j'aime pas les super-héros, puis en même temps, bah, c'en est un sans le vouloir.
Mais oui, non, mais bah, le type de pouvoir est assez semblable à celui de comment il s'appelle? Bah, le mec des Young X-Men.
Non, parce que là, c'est vraiment son pouvoir à lui, non? Bon, je le connais pas beaucoup, lui.
Bah, je crois que normalement c'est ses tatouages qui s'animent.
Oui, il s'anime, mais de l'autre côté, c'est le symbole du tatouage qui lui donne un pouvoir.
Bah,
Ça, c'est
c'est
vraiment la...
le côté relation tatouage. Bon, le personnage de Tattooed Man existe depuis un moment déjà. Donc,
Oui, ça, j'imaginais bien. Vu qu'il le dit, ils en parlent comme un vilain, qu'il aimait pas du tout les super-héros, puis après, t'as deux, trois petits clins d'œil, donc non, mais... Moi, j'ai beaucoup aimé.
ça permet de le voir déjà un petit peu plus de faire sa rencontre. On se doute bien qu'il y aura un rôle prépondérant d'ici la fin du crossover. Et puis bon, après il y aura autre chose. Il sera utile ce personnage.
Vivement alors, parce que je l'aime bien.
Après, restera à savoir si Panini décide de publier les aftermaths à Final Crisis, quoi.
Ouais, bon, ça c'est pas gagné d'avance, mais...
Voilà. Parce que bon, le choix des personnages sur ces aftermaths est assez bizarre, parce que c'est des personnages assez peu connus et assez peu emblématiques, donc j'ai bien peur que ça passe à la trappe.
Bah, espérons pas.
Et toi, Benny, à part le fait que tu sois perdu, ou tu te sens en tout cas perdu un petit peu au début, t'en as pensé quoi en général, en gros, de l'épisode?
Déjà, j'ai pensé que peut-être c'est. Enfin, ça m'a étonné, tu vois, que l'épisode soit centré uniquement sur le fait que Éclair Noir, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois.
Non, je sais pas son nom français.
Mig, Éclair Noir, c'est
Oh, je crois
ça?
que c'est ça.
Oh là
Ouais.
là.
Black Lightning.
C'est horrible,
Ouais,
quoi.
Black Lightning soit pris par les. Alors en français, c'est les justificateurs.
Ouais, bah, les Justifiers,
Ouais, les justificateurs. Donc voilà, ça m'a étonné que ce soit. Enfin, qui prennent justement tout un épisode pour ça, puisque comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça, tu vois, il évite de montrer trop de bastons. Mais d'un autre côté, ça m'étonne qu'il y ait autant de numéros à part, centrés sur des persos secondaires, où au fait, on a l'impression que, tu sais, qu'ils te montrent pas l'essentiel et qu'ils s'attardent sur des petites choses comme ça.
En fait, là, Black Lightning, c'est largement pas le perso principal, on va dire.
Oui,
C'est
tout à
plutôt
fait.
Ink le perso principal
Ah
que
oui,
lui, quoi.
d'accord. Ouais, enfin, l'autre, il m'a pas. Je veux dire, bon. Les mecs avec des tatouages magiques, on a vu ça il y a peu de temps en plus dans X-Men. Et je sais pas, il m'a pas. Enfin, voilà, c'est pas le personnage le plus charismatique que j'ai pu lire.
Moi, je trouve au contraire, moi, je l'ai beaucoup aimé.
Bon, bah enfin voilà, quoi. Sans plus sur ce perso. Et sur ce one shot en général, bah voilà, tu vois, c'est l'utilité de ce one shot qui m'interroge. En fait, on a l'impression que Morrison s'attarde sur des petites choses, tu vois, des petits détails, et que les trucs les plus importants de son récit sont soit éludés, soit pas montrés, soit tu vois, vraiment il s'attarde, enfin il fait trois cases dessus et puis limite tu passes à côté si tu fais pas attention. Donc voilà, donc ça m'étonne, quoi, de.
Mais pour moi, ce one shot, il a deux fonctions. Déjà, nous montrer la chute de Black Lightning, qui était pourtant un membre éminent de cette résistance. Ensuite, faire que Tattooed Man se range du côté, on va dire, de la résistance et des bons, et lui passer cette espèce de, je sais pas trop, cette espèce de truc qui lui transfère et qui lui dit de garder précieusement et de transmettre aux autres héros le restant de la JLA. Et voilà, pour moi, c'est ça les choses importantes. De ce one shot. Puisque de toute façon, on le revoit ensuite bah, dans le numéro dans les numéros d'après, quoi. Et rien, enfin, il est certain qu'il jouera un rôle prépondérant pour la fin de la résolution du conflit, quoi.
Certainement.
Donc, voilà. Bon, on va passer au 4, hein.
Ouais.
Enfin, au Final Crisis 4. Scénario de Grant Morrison toujours, dessin de J.G. Jones et Carlos Pacheco, qui vient à sa rescousse cette fois-ci, puisqu'il a du mal à tenir les délais. Ancrage de Jesús Merino et Carlos Pacheco. Donc, là, faut m'aider parce que j'ai un trou.
Bah là c'est vite vu, là c'est on voit un peu toutes les bases de la résistance, on va dire.
Ah oui, voilà,
Tous
c'est
les
ça.
bastions de la résistance.
C'est ça.
Donc comment le Daily Planet est je crois qu'il est imprimé, je crois, dans la forteresse de la solitude, je crois,
Ouais,
hein,
c'est
de
ça.
Superman.
Ça
Il y a
m'étonnait
encore
là.
la tour de garde de la JLA, puis il y a deux, trois petits trucs comme ça. Donc c'est assez sympa à voir, si tu veux, comment ils sont un peu dispersés.
Ouais, puis on voit aussi qui reste encore non atteint par cette équation, quoi. Donc on a quand même
Ouais,
Green
voilà.
Arrow, Black Canary, on a The Ray,
Et les flashs.
et les Flash, ouais. Mais les Flash, ils sont dans le futur, en fait. Ils sont toujours dans le
Oui, mais ils
futur
sont
pour moi.
toujours là.
Mais voilà, mais ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'au moins là, c'est un épisode, on va dire, qui fait le point. On est au milieu de la saga et on fait le point. Voilà où on en est. On compte les points, quoi, exactement. Donc qui est mort, qui est possédé, qui est toujours du côté des bons, etc., etc. Donc là, c'est bien. C'est bien parce que là enfin je m'y retrouve. Je sais où on en est, alors qu'avant c'était un petit peu nébuleux. Il y avait des choses que je voyais pas trop où ça allait, et là bon, voilà, au moins là c'est clair.
Moi, enfin, le petit souci que j'ai avec Final Crisis en général, c'est comment va se passer le retour à la normale. C'est un peu ça qui me gêne.
Et surtout comment,
Bah,
on va dire. À la
ben,
fin, j'ai envie de te dire.
non, oui, non, comment, c'est ce que, ah, c'est que vous aviez peut-être entendu quand, j'ai dit comment
Oui, t'as dit
pourtant.
quand?
Ah, non, j'ai dit comment, enfin, bon, c'est pas grave. On va pas
Enfin, tu te réécouteras, tu verras bien.
Ouais.
Hein.
C'est comment effacer un petit peu, enfin, effacer. En tout cas, comment revenir, un statu quo normal. C'est ça qui me dérange un peu dans cette histoire, c'est que c'est tellement gigantesque que tu sais pas comment l'univers DC va pouvoir repartir après ça.
Oh, c'est pas plus gigantesque que comment ça s'appelait, Infinite Crisis?
Ah bah si, beaucoup plus, parce qu'il n'y avait pas toute la Terre de subjuguer à Darkseid là. Enfin, en tout cas
C'est ça.
pas.
Là, c'est un remodelage de tout l'univers, on va dire.
Ouais, enfin, ouais.
Si, quand même.
Bah, tous les humains, ou presque, sont annexés.
Eh,
Ils sont
mais
en
tu vois,
esclaves. Les héros aussi. Les héros et vilains aussi.
ça, la lecture des histoires écrites par Morrison, tu t'en rends pas bien compte que les humains sont annexés. Enfin,
Ah
moi,
si, tu
tu
vois
vois.
clairement quand même, hein.
Ah bah,
Rien que quand tu vois deux, trois cases avec la télé qui tourne, genre l'équation de vie et la solution, et haïssez vos voisins, machin, tu vois des humains
oui,
qui sont
enfin
en
c'est un peu
esclavage.
rapide. C'est un
Tu
peu
vois qu'il
voilà.
travaille. Bah, oui, c'est rapide, mais bon, parce que c'est pas intéressant, les civils.
Ce qui est marrant, c'est quand c'est trop long, c'est trop, et quand c'est pas assez, c'est pas assez.
Ah bah faut un
Moi, je trouve que
juste
c'est
milieu.
juste la bonne dose.
Ah ouais, non, là pour moi, enfin, ça m'a pas gêné du tout à la compréhension. On se rend bien compte que quasiment tous les humains, il n'y en a plus. Il doit sûrement en rester qui ne sont pas aux ordres de Darkseid, comme il reste certains héros qui ne sont pas aux ordres de Darkseid, mais il doit pas en rester beaucoup. Hein.
Et Darkseid, donc il est manipulé par ses sbires ou
Ah non, 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 c'est son plan depuis le départ.
D'accord. Parce qu'à la fin, tu vois, j'avais le sentiment. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça que j'ai pas bien saisi dans Final Crisis, par exemple. À la fin, je vois, il discute avec ses gardes et tout. Et j'avais l'impression, tu vois, que c'était ses gardes qui lui faisaient, comment dire, enfin, mettre le doigt vers le bas, quoi, tu vois.
Mais non, c'est qu'il prend, il reprend possession de son corps, et il redevient ce qu'il était enfermé comme tous les autres dans le corps des humains, comme tout le reste des New Gods.
Ouais, bah, tu vois, bah, tout ça, je l'avais oublié, par exemple. Et à la lecture, je me suis dit, attends, est-ce que Darkseid, il fait ça de son plein gré, ou est-ce qu'il est manipulé par ses sbires qui, au fait, contrôlent la situation? Et ouais, ok, d'accord.
En fait, celui qui abritait le corps de Darkseid, enfin qui abritait, pardon, l'esprit de Darkseid dans son corps, résistait depuis le début. Et en fait, à
Là,
la
c'est les
fin.
dernières onces de studio de rébellion qui restent, le doigt en
Voilà.
basse pour dire, bah, on va tout poutrer.
Ça y est, en
D'accord.
fait, il est tombé complètement, et donc Darkseid est pleinement lui maintenant.
D'accord. Ok,
Prêt au
bah ça, tu vois,
combat.
je l'ai pas compris comme ça. Ok.
Voilà.
Par contre, un petit truc assez drôle, je trouve, c'est l'arrivée de Mister Miracle. J'ai
Ah
trouvé
oui.
ça extrêmement comique. Genre, il arrive, ça fait, non, tirez pas, je suis là, on peut sauver le monde, paf, mort.
Ouais.
En une page, j'ai beaucoup aimé.
Mais là, c'est pareil, tu vois, quand tu connais mal le perso, il attends, si déjà. Tu vois, moi, j'avais même oublié que c'était un New God.
Ah bah oui.
Oui, mais bon.
Donc,
Même moi qui m'y connais pas trop, j'ai quand même deux, trois petites références, on va dire.
ça reste quand même, c'est vrai, un crossover qui est hyper difficile à aborder pour qui n'a pas une très grosse connaissance de l'univers DC.
Moi, perso, je connais pas beaucoup l'univers DC et je le trouve pourtant plus accessible que la JSA, tu vois, par rapport à tous les persos, tous les trucs et tout.
Un autre point important aussi, c'est quand même ce qu'on voit avec les flashs dans le futur. Et notamment que Barry, en embrassant Iris, lui permet de redevenir normal.
Ouais, ça non plus j'ai pas pigé quoi.
Ah
Donc
bah, on n'en sait pas plus, mais en tout cas, le salut
d'accord.
viendra peut-être des flashs, quoi.
C'est parce qu'il l'embrasse super bien, c'est pour ça que vous avez rien compris de nouveau.
En même temps, Iris a toujours été son point d'ancrage quand les choses n'allaient pas. Donc, est-ce que c'est genre l'amour qu'ils se portent tous les deux, ou est-ce que c'est le pouvoir des flashs? On verra bien
Bon,
de
c'est
toute
peut-être la
façon.
force Veloz qui fait opposition à l'équation, hein, aussi.
Possible aussi que ça vienne de la Speed Force.
Ouais, je pense plutôt que c'est ça, hein, plutôt que le baiser.
Après, il faudra voir si ça marche sur d'autres personnes que Iris, quoi. Là, en tout cas, il y a
Bah, il va
déjà.
s'emmerder à embrasser tout le monde quand même, hein. Oui, c'est ce que je me suis dit au début, tu vois.
Mais
Il va
quelqu'un
pas
comme Gorille
pouvoir.
la Grotte, ça va être difficile de l'embrasser quand
Je suis pas sûr qu'il le fera.
même. Surtout Gorille la Grotte.
Et je suis pas sûr que Batman le laissera faire non plus, hein.
Ah bon. On va passer au dernier épisode du MAC, c'est le Resist. Il est écrit par Greg Rucka et Eric Trautmann. Le dessin est de Ryan Souk, l'ancrage de Marco Rudi. Donc cette fois-ci, on a une autre cellule de la résistance qui est Checkmate.
Ouais.
Donc ben, une organisation assez importante, on va dire, dans l'univers DC en général. Moi, c'est une organisation que je connais assez peu bah, à travers Infinite Crisis notamment. Mais bon, voilà, je n'ai jamais lu les séries Checkmate ou quoi que ce soit, donc déjà c'est un peu plus
Moi, je crois
difficile.
que la seule fois où je l'ai vu, c'était dans bah, avec les Omac, là. C'était
Ouais,
Infinite
le
Crisis, non?
Omac. Ouais.
Infinite Crisis, ouais,
Voilà.
le prélude à Infinite Crisis. Alors par contre, il y a un truc que moi, je suis un peu tombé des nues, donc peut-être que les auditeurs qui connaissent bien bien l'univers DC pourront répondre. Alan Scott, qui est le Roi Blanc, waouh. Alors est-ce que c'est dû aux conséquences de Final Crisis et du fait qu'il n'y ait plus personne? Ou est-ce que c'était déjà là avant? Mais moi, en tout cas, ça m'a surpris de voir Alan Scott, Roi Blanc de chez Checkmate, quoi.
Moi, ça m'a pas surpris parce que Alan Scott, je sais même plus qui c'est.
C'est
Qui est Alan Scott?
le premier Green Lantern.
D'accord. Ah oui,
Celui qui est
d'accord.
dans la JSA.
Bah, à mon avis, c'est nouveau parce que j'en ai jamais entendu parler avant.
Parce que bon,
Ou alors c'était très secret alors.
Mister Terrifique en rat noir, à la rigueur, ça me... le concept me gêne pas. Mais c'est Alan Scott en Roi Blanc, ça m'a paru bizarre, quoi.
Mais on le voit pas en tout cas, là, lui, Alan Scott.
On le voit vite fait dans un flashback, je crois. Ou c'était dans Final Crisis 4, peut-être. Oui, c'est dans Final Crisis 4 qu'on voit un moment, justement,
Ah oui.
quand il parle de toutes les cellules de
Ouais.
résistance, qu'on le
Ouais.
voit en train de justement prodiguer le message à toutes les cellules.
D'accord, ouais, c'est ça. Bon,
Mais
moi, je peux pas dire si ça me choque ou pas, vu que je connais pas super bien non plus.
Bah, disons que ça m'a paru bizarre, mais bon, c'est peut-être moi. Hein. On va pas rester 3 heures là-dessus.
Ah, moi, je me souvenais par contre de Sacha Bordeaux comme personnage dans OMAC, puisqu'on l'avait vu dans OMAC Project.
Bah, mais oui, il avait un rôle prépondérant dans cette mini, quand même. Donc,
Ouais, mais par contre, le mec qui sort avec Cheetah, qui est-ce?
Ben justement, je sais pas non plus. Et puis j'ai pas eu le temps de faire des recherches, donc je sais pas.
C'est le livreur de journaux.
C'est le livreur de pizza, je pense.
Non, c'est le livreur de journaux dans l'histoire, en tout cas.
Ah, c'est vrai?
Non, oui, mais il livre les Daily Planet, je crois.
D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'il fout? Non, mais attends. Au début, il est dans la, comment dire, la base de la GLA dans l'espace, non? Si je me gourre pas.
Parce qu'il était venu chercher un truc, je crois.
Je crois des survivants, non?
Donc, à mon avis, c'est plus qu'un livreur de journaux.
Non, mais je me suis gouré. Livreur de journaux, c'était dans l'autre épisode avec.
Ouais, c'était The Ray. Mais The Ray, c'est un personnage qui a eu même sa propre série pendant un petit moment au milieu des années 90.
Ouais, bah là, il est livreur.
Là, il cherche Firehawk, qui est donc la personne qui l'attaque, à mon avis.
Possible.
Voilà, parce que je sais même pas qui est Firehawk non plus. Donc bref, voilà, enfin, le problème de ces séries, c'est qu'il y a plein de personnages obscurs qu'on met en avant, mais tellement obscurs que je n'arrive pas à savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est la relation qu'il noue avec Cheetah, même si je le connais pas ce mec-là, ça m'a fait marrer.
Ouais.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est peut-être justement l'attaque des. Enfin la technique de Mister Terrific qu'il met en place avec les Omac.
Ben voilà, c'est aussi une autre porte de sortie peut-être pour justement cette crise-là, quoi.
Ouais.
Bah, c'est surtout la seule façon de contrer un peu tout ça, quoi. Vu que c'est, je crois que c'est, comment elle s'appelle, la fille la moitié technologisée, machienne.
Sacha.
Voilà. Vu que c'est Sacha, puis elle, c'est une sorte d'ordinateur aussi, donc c'est peut-être le seul moyen aussi de contrer l'équation, comme la force Velos.
Bon, par contre, on en revient toujours aux mêmes manières de gagner, quoi. C'est-à-dire qu'on fait toujours appel à Flash et à la Force Veloce, et on fait toujours appel au OMAC depuis Infinite Crisis.
Bah, toujours appel aux OMAC, non. Parce que les OMAC, ils ont quand même pété des gueules chez les super-héros pas mal, quand même, hein. Il y a eu pas mal de
morts. Ouais, enfin, ce que je veux dire, c'est que, on refait appel aux OMAC, enfin, les scénaristes réutilisent les OMAC. La dernière fois, effectivement, c'était un danger. Là, maintenant, ça devient quelque chose de salvateur. Mais je veux dire, c'est toujours pareil, tu vois ce que je veux dire?
En même temps, regardez, c'est censé être la fin de la trilogie Crisis, avec donc Crisis on Infinite Earth et Infinite Crisis. Ce qui avait sauvé dans Infinite Earth, c'était Flash, puisqu'il s'était sacrifié.
Mm-hmm. Voilà, c'est ce que
et dans OMAC, l'autre truc, dans Infinite Crisis, c'était les OMAC qui avaient une part prépondérante. Là, le fait qu'on fasse appel aux deux pour peut-être avoir une solution, c'est un moyen de boucler la boucle et continuer dans cette trilogie.
Ouais, sans doute. Sans doute.
Pour moi, c'est pas une facilité, c'est plutôt un moyen de terminer l'histoire en s'appuyant sur les deux avant et de continuer dans cette espèce de trilogie, c'est-à-dire faire un parallèle avec le reste, quoi.
Bizarrement, autant j'avais été vraiment captivé par Infinite Crisis d'un bout à l'autre, autant là, tu vois, Final Crisis, pour moi, c'est pas, enfin, voilà quoi, tu vois, je le suis, mais sans plus, quoi. Je me suis jamais tellement accroché par Final Crisis.
Bah, déjà, c'est le fait que ce soit très très compliqué à comprendre à cause de la multitude de personnages. Après, il y a le style d'écriture de Morrison. À comparer, tu vois, je préfère Final Crisis à Rip. À choisir les deux.
Pour moi, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, hein, quand même. C'est-à-dire que, autant, tu vois, il y avait énormément de personnages dans Infinite Crisis, et je comprenais quand même ce qui se passait, alors que je découvrais en plus l'univers DC à l'époque. Donc y a plein de gens qui m'ont dit « Ah non, c'est pas possible, tu vas être largué, tu vas rien comprendre, il y a trop de persos. » Et j'avais pas eu de mal, puisqu'au final, c'était très bien expliqué, tu vois. Il y avait Superboy Prime, etc. Enfin, tu vois, il t'expliquait qui faisait quoi et où ça allait. Là, tu vois, Morrison, franchement, c'est... Enfin, je trouve ça super brouillon. Enfin,
La différence de narration entre Jones et Morrison.
Non, mais complètement, voilà, c'est ça mon problème. Et j'accroche beaucoup moins. Franchement, j'accroche beaucoup moins.
Pour ce résiste, en tout cas, je sais pas si vous avez pensé ça tous les deux, mais on sent nettement la différence au niveau de l'écriture et on sent que c'est pas Morrison qui est aux commandes de résiste, quoi.
Ah bah c'est le plus clair des épisodes, je trouve, c'est le plus fluide aussi. Ça s'enchaîne bien, quoi, tu vois.
Je sais pas si t'as senti cette différence toi aussi, Mig.
Bah moi le problème c'est que j'ai pas, pour une fois, j'ai pas cette impression-là de largage comme j'ai eu d'autres fois. Tu vois, bizarrement.
Non, mais sans forcément être largué, je parle simplement de la narration en général. T'as senti la différence ou pas?
Bah,
Enfin,
la
moi, en tout cas, je
différence,
l'ai
elle est aussi
senti.
dans le fait qu'il y a moins de choses qui se passent dans le dernier épisode. C'est plus centré dans une sorte de, on va dire, de deux huis clos séparés. Une première fois, je crois que c'est sur la tour de garde, puis après dans le truc de checkmate. Donc c'est vachement plus simple de faire un truc plus concis là-dedans qu'un autre truc un peu plus global. Toi, c'est comme ça que je le vois, perso, hein.
Ah, pourtant, avec la taille de Checkmate, plus l'intrigue avec les Omak, etc., ça faisait appel à pas mal de choses, quoi.
Oui, ça fait appel à pas mal de choses, mais ça se réduit toujours dans un lieu clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 millions de persos dedans.
Bah, dans le premier non plus, hein, dans Submit non plus, il n'y a pas énormément de personnes.
Non, mais il y a assez de persos, si tu veux, qui peuvent, si tu veux, mener, si tu veux, une sorte de déstabilisation des lecteurs. Genre, moi, je connaissais pas du genre Tatooed Man, là. Donc j'aurais pu me dire, c'est qui ce gars-là, quoi.
Bah ouais, mais
Dans le deuxième
justement, non.
épisode, avec tout le bastion des résistances et tout ça, hein, tu vois, il y a plein de trucs qui se passent dans tous les sens, tu vois, plein de gens, donc... Peut-être qu'il est plus concis aussi par rapport à ça. Le troisième.
Justement, le troisième, je sais toujours pas qui est le mec qui couche avec Cheetah en définitive.
Ouais, mais c'est un élément.
Ah bah c'est un élément important apparemment, puisqu'on le voit beaucoup dans l'épisode.
Snapper Car, il s'appelle. Qui a le pouvoir de se téléporter.
Ouais,
Ça, on avait
qui a
dit.
le pouvoir de se téléporter, mais d'où il sort, je ne sais plus.
Donc son nom, c'est Snapper Car. Enfin bon, je crois qu'on a fait le tour, hein, grosso modo, sur Final Crisis, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Non, non, je crois qu'on a fait le tour, effectivement.
Moi, j'attends la suite, qui malheureusement ne viendra que dans 3 mois, puisque c'était prévu pour sortir en janvier, mais ils l'ont décalé parce qu'il y a trop de choses apparemment en janvier, donc on aura la suite en février. Ok, bon bah, on va passer maintenant au DC Universe numéro 52. Les deux premiers épisodes, ou plutôt le premier épisode et demi, c'est Green Lantern 34 et 35, donc seulement la moitié du 35. Scénario, Jeff Jones, dessin, Ivan Reis, et ancrage, Hawkler Albert. Donc, bon, on va dire avant-dernière partie, du coup, de Secret Origins, puisqu'il reste un petit bout avant la fin. Le combat contre Atrocitus.
Le
Carte
fameux
l'a bien dit cette fois.
Atrocitus.
Ouais, maintenant je fais attention. J'essaie de faire gaffe, c'est bon. Je suis assez passé pour un con comme ça. Et puis le rapatriement sur Oa, parce qu'ils sont trop amis.
Voilà, ils passent trop de temps ensemble. Et dans le moins, Green Lantern, ça vole seul.
Ah puis voilà, puis ils se sont serrés la main, ils se sont dit waouh, on est potes.
Et ça, faut pas.
Et non. Putain de gardien de l'univers. Bah, c'est des épisodes qui, comme le reste de l'arc Secret Origins, sont très très bons. Ça permet de refaire un bon point sur le départ de Green Lantern, le lien entre Sinestro et Hal Jordan, les prémices, parce que on se doute bien qu'Atrocitus va revenir, donc les prémices de ce qui va se passer. On nous parle aussi de Blackest Night.
On voit un peu plus aussi des gardiens là.
Oui,
C'est-à-dire moi je les vois un
oui.
peu plus. Quoi, j'en ai appris un peu plus. Rien que la ville d'Oa qui soit construite tout en jaune, parce qu'ils aient peur que ça, tout un coup, il y en a un qui se retourne, n'importe quoi, je trouvais ça excellent aussi. Je sais pas si c'était le cas avant.
Ah oui, voilà, je me posais la même question. Est-ce que c'est des nouvelles choses imaginées par Jones ou est-ce que effectivement c'était déjà le cas avant?
Alors là, je pourrais pas vous répondre.
Non, mais enfin voilà, c'est des interrogations que je me suis posées.
Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un ajout de Jones, mais bon, peut-être que c'était mentionné dans une histoire et que dans un tout petit backup, genre au fin fond d'un annuel dans les années 80, qu'il nous a ressorti ça comme il a l'habitude de le faire et qu'il sait si bien le faire d'ailleurs. Parce que c'est vrai que beaucoup de choses comme Atrocitus ou ce genre de personnages-là, les Five Inversions, c'était par Alan Moore au fin fond d'un backup.
Ouais.
Donc il s'est basé toutes ces nouvelles histoires sur des toutes petites choses, mais en les développant vraiment et en rendant ça vraiment cohérent, quoi. Non, l'ensemble de l'arc en général est bon, quoi. Enfin, il y a rien de plus à ajouter.
Non, c'est même très bon, on va dire.
Il s'est alterné entre les moments de grosses batailles, sans pour autant que ce soit insoutenable parce que trop long, et puis les moments de, on va dire, de tendresse, drama, le passage où il va voir Carole, juste après, ce genre de choses-là, quoi.
Ah, puis rien que le fait qu'il trouve le... Comment il s'appelle? Le commandant, la Ferris, c'est ça? Le capitaine, je ne sais plus quel degré il a. Bah rien qu'il soit dans le lit, puis qu'il apprenne tout ça, qu'il la considère comme son fils, je trouve que c'était assez prenant, quoi. Donc non, c'est plein de petits trucs que j'avais lu des Green Lantern à l'époque, que j'avais pas. Bah là, il le remet au goût du jour, mais en super bien.
Ah ouais, complètement, ouais.
Moi j'adore. Tiens, pour une fois, j'ai pas l'impression de déjà vu, on va dire. C'est vraiment du tout nouveau.
Oui, et puis justement, il arrive à ne pas se contredire avec ce qu'il avait fait dans, par exemple, dans Green Lantern Rebirth. C'est-à-dire que il rajoute encore des choses aux origines, sans pour autant que ça aille à l'encontre de ce qu'il avait fait avant.
C'est pour ça qu'il est très très fort, quoi.
Oui, ouais.
C'est clairement la valeur sûre de chez DC.
Ouais. Par contre, bon après, c'est peut-être un peu frustrant de devoir attendre plusieurs mois durant lesquels on a le droit à comment dire un retour sur les origines à nouveau, mais finalement l'intrigue principale qui amène à Blackest Night du coup s'en trouve comment dire décalée
Et
quoi.
ben justement non. Moi aussi c'est ce que j'ai cru la première fois que je les ai lus, je me suis dit bon, 7 parties, ça fait beaucoup. Voilà quoi, ça fait 7 mois où ça n'avance pas, surtout que je crois qu'il y a eu un mois ou deux où il y a eu du retard, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, on se dit voilà, ça n'avance pas, c'est dommage quoi. Et en fait, il y a énormément de choses qui sont dites qui vont servir à Blackest Night. Donc pour le moment on s'en rend pas compte, c'est après que les liens se feront et qu'on comprendra et que finalement c'était un passage obligé.
D'accord.
Mais voilà, et encore il y a la fin du numéro 35 à venir où il y a encore quelques petits trucs qui vont émerger et puis normalement le mois prochain donc c'est ça plus Rage of the Red Lanterns et donc là c'est vraiment le démarrage le vrai prélude à Blackest Night quoi. Voilà. C'est vrai que on a tendance à s'attarder quand les choses sont pas forcément très bonnes et un peu moins quand elles le sont mais que dire d'autre que bah c'est un must-read quoi.
Ah bah surtout si certains lecteurs commencent à partir de ces numéros-là, effectivement, voilà, c'est les numéros idéaux pour à nouveau se mettre à Green Lantern, de toute façon.
Mig, une dernière pensée peut-être? Avant l'exécution?
Avant l'exécution, je sais pas. Non, non. Bah, moi j'aime bien.
Ah oui, non, mais...
à part ça, je vois pas quoi dire d'autre.
C'est bien avant une exécution.
Ça restera dans la postérité, je pense.
Ouais.
Dans le postérieur.
Oh là là. Ok, on va passer au JLA numéro 25. Scénario de Dwayne McDuffie, dessin et ancrage de beaucoup beaucoup de monde, ce qui fait que je vais pas les citer, ça va prendre trop de temps. Vous regarderez vos mags, et puis voilà. Hein. On a enfin quelques réponses enfin quelques réponses. Vixen va enfin rencontrer la personne qui s'amuse avec ses pouvoirs.
Voilà, si, personne.
Si on
le
peut
dieu
dire
quand même.
personne. Voilà, ouais, c'est ce que j'ai. Et ça nous donne un épisode, déjà un numéro 25, donc double, assez étrange.
Ouais. Ouais. Un transfuge de Spider-Man, au fait, le dieu machin, là, le dieu araignée. Puisqu'au fait, c'est exactement la même histoire que lorsque, je sais pas si vous les aviez lus, mais lorsque Spider-Man rencontre le dieu Anansi, puisqu'il le rencontre aussi. C'était à la fin de la saga totémique de Straczynski sur Spider-Man. C'était The Book of Ezekiel. Et il rencontre au fait cette espèce de créature araignée, Anansi, et qui lui révèle qu'il est issu d'une lignée totémique. Au fait, c'est à peu près le même discours que là avec Vixen.
Moi, je trouve pas du tout, hein.
Ah bon,
quand même, Anansi, ça reste un dieu, c'est comme tu peux faire 1000 torts, 1000 machins, etc.
De toute façon, les dieux sont dans le domaine public, donc tout le monde peut les utiliser déjà.
Donc à partir de là, oui, c'est un transfuge du Spider-Man, même de, si tu veux, de la mythologie, je crois que c'est africaine. Mais moi, je trouve que l'épisode est vraiment... Moi, j'ai adoré.
C'est ah bon
complètement avec le... Ah oui. Bah, franchement, oui.
Oui, je me suis fait
moi,
chier.
Moi, je sais pas.
Hein.
Bah, si tu l'as vu comme un transfuge de Spider-Man, ben
non,
oui,
non, non,
c'est
parce
pas
que...
Spider-Man.
C'est pas un transfuge de Spider-Man, je sais que le personnage existe, ça n'a pas été créé par Straczynski, mais je veux dire, j'ai eu l'impression de lire la même intrigue, la même histoire, sauf que au lieu que ce soit avec Spider-Man, là c'était avec la JLA, et en l'occurrence avec Vixen, mais bon, sinon...
Ah non, voilà. Parce que là, ils ont comme bien repris le côté du genre, toutes les histoires m'appartiennent, donc je fais un peu ce que je veux. Rien que le côté avec Animal Man, où lui dit non, c'était pas des extraterrestres, c'était moi...
Oui, ça c'était sympa, ouais, ça c'était sympa.
Non mais
ouais,
tous les trucs, c'est pas du tout le même genre, je crois. Ça c'est vraiment le dieu Anansi à proprement parler, celui-là qui ment tout le temps, celui-là qui possède toutes les histoires, donc il peut tout faire quasiment. Et je sais pas, c'est peut-être le petit côté un peu what if de tout ce qu'il peut faire avec un Batman cowboy ou qui m'a plu là-dedans. C'est tous ces petits trucs, toutes ces possibilités à venir.
Moi, ce qui m'a gêné, hein, c'est, je l'ai lu déjà après Trinity, le fait qu'on ait des versions différentes, etc. Ah, pareil, le fait que ce soit le même moi, ça m'a... Boum, voilà, je me suis dit, allez, merde encore.
Là, c'est juste des possibilités qu'il énonce, c'est des histoires qui pourraient arriver. Donc c'est pas que ça arrivait, c'est des trucs qui pourraient arriver.
Ouais, mais bon, Vixen s'échappe et on se doute bien qu'elle va s'échapper dans un monde, différent. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai ressenti à la fin de l'histoire, en tout cas. Bon, pas vous apparemment.
Peut-être. Non, moi j'ai pas vu. Je sais pas.
Et tu me parlais aussi, juste avant qu'on enregistre, d'un bouquin écrit par Neil Gaiman que ça t'avait auquel ça
Un
t'avait fait
Envie
penser.
Boys là, ouais. Qui est vraiment super bien foutu. Puis je crois que c'est peut-être pour ça qu'il m'a aussi beaucoup plu, cet épisode, on va dire, ce double épisode. C'est-à-dire que c'est vraiment le côté Dieu qui était repris, puis pas un truc un peu vulgarisé super-héros. C'est vraiment le Dieu de toutes les histoires. Celui-là qui ment tout le temps. Et bah si vous n'avez pas lu Un Envie Boy, faut le lire. Il est vraiment excellent. Avec plein d'humour, il est bien.
D'accord. Mais non, enfin moi ce que je me posais aussi comme question, c'est qu'est-ce que ça, où est-ce que ça nous amène finalement tout ça? Qu'est-ce qui va, enfin voilà, qu'est-ce que ça apporte de plus?
Ben on le saura le mois prochain parce que alors je sais pas s'ils l'ont mis en français, mais en tout cas en anglais il y a écrit to be conclude. Donc déjà c'est bien, c'est que cette histoire va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Mais parce que c'est ce que je disais le mois dernier, le problème c'est que ça fait vraiment longtemps que ça dure
Bah
et
oui, voilà.
il est temps que ça s'arrête.
J'ai
Bah, le
l'impression
problème,
que...
non, le. Faut... Là, vous pinaillez quand même un petit
Bon,
peu. C'est-à-dire,
bah
ça fait un
non.
moment que ça dure. On a vu peut-être 3-4 pages avec des bastons incroyables, incroyablement nuls même avec Amazo, des histoires plates. On a vu à
Ouais.
chaque fois 2 pages qui étaient bien à propos de Vixen, etc.
Ouais.
Et là, maintenant, au moins, on va savoir ce qui se passe un tout petit peu.
Ah bah oui, bah
Non mais quand
attends.
je dis qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ce fil rouge sur Vixen
Oui,
s'arrête.
voilà. Au bout de 25 mois, quand même. La moindre des choses, c'est qu'on nous dise enfin, tu vois ce que c'est, et que qu'il y ait une histoire bien, quoi, tu vois, à propos de Vixen.
Ouais, je pense en fait moi que la chose qui m'a déçu, c'est que je m'attendais à la conclusion dans ce numéro 25 anniversaire, tu vois, et qu'en fait il fallait
Mais.
attendre le mois prochain pour avoir la conclusion, c'est peut-être aussi ça qui m'a un petit peu déçu.
Ouais, bah j'espère que la conclusion au moins sera intéressante, parce que là, pour le moment, je sais pas du tout où ils veulent aller, quoi.
C'est bon, c'est vrai que d'un côté c'est couper court aux idées reçues de terminer des grosses histoires dans des numéros anniversaires, trucs comme ça. Donc il y a ce côté-là qui change par rapport à d'habitude, mais on est tellement habitué à ça que moi en tout cas, pour ma part, ça m'a presque déçu de voir que ça ne s'arrête pas là et qu'il y a encore un mois à attendre pour avoir la fin. Bon, bah.
Autre chose? Quelqu'un?
Non, je sais pas, t'as pas eu cette impression de la nuit, toi.
Franchement, non.
D'accord. Non, mais t'as le droit, hein. Il n'y a pas de
Non,
problème.
mais peut-être parce que je lis moins de VO, donc les trucs anniversaires comme sont dans les magazines, bah tu t'en rends peut-être moins compte. Mais c'est vrai que je vais pas être déçu parce que c'est pas conclu un mois, puis si je dois attendre le suivant, voilà.
C'est vrai que
Où ça va
c'est.
amener? À place de me faire des films ou n'importe quoi, je préfère me laisser un peu
Bah là,
la
ça va être
surprise au
difficile
mois
de toute
prochain.
façon d'arriver à se faire un film quelconque, quoi.
Ah oui, non, là, pff, ouais, bah.
Donc voilà, je suis le seul à avoir aimé.
Voilà.
Bah, je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais j'ai pas trouvé ça génial, tu vois.
Oh, moi je me suis un peu emmerdé.
C'est moyen, quoi. C'est moyen. En même temps, il a fallu que je le lise assez vite, donc c'est pareil, j'ai pas pris aussi super le temps pour le lire, donc il y a peut-être ça aussi qui a joué, mais voilà, quoi, bon. Avec cette petite déception en plus, qui fait que ça me laisse un goût de mitigé dans la bouche.
Non, moi je. Honnêtement, et puis il y a aussi le petit truc qui m'avait beaucoup plu, c'est cette sorte de leitmotiv tout le long des épisodes, c'est l'araignée tisse sa toile. Moi je trouve que c'était vraiment aussi bien foutu dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il tisse sa toile tranquillement jusqu'à arriver à ses fins.
Là encore une fois, on verra où ça nous mène, quoi. Ce que j'ai peur, c'est l'effet pétard mouillé, quoi, en fait, c'est ça.
Bah, ça peut arriver, mais pour l'instant, moi je dis je parle au jour le jour comme ça en lisant. Pour l'instant, moi j'aime.
Peut-être
Peut-être que la
que.
prochaine fois, je te dirai ça t'est pourri la fin, ou c'est retombé comme un gros soufflet, ou tout ce que tu veux, mais.
Encore une fois, je vais me répéter un peu, mais c'est vrai que je pense que si Dwayne McDuffie n'avait pas eu les mains liées à devoir faire des épisodes de commande, à essayer de coller avec Salvation Run, à essayer de coller avec tel ou tel événement, avec Final Crisis, avec tout ça, peut-être que cette histoire aurait été résolue un peu plus vite et nous aurait peut-être moins, pas déçus, mais en tout cas, le soufflet serait pas retombé aussi vite, quoi.
Pour vous, moi pour moi il n'est pas aussi de
Oui,
retombé que ça, on va dire.
je parle pour nous. Entendu, puisque toi, je sais que tu l'as apprécié l'épisode. C'est peut-être aussi ça, le fait que ce soit tellement sur la longueur qu'à force, bah, ça s'essouffle, quoi.
De toute façon, depuis 25 numéros, GLA pour moi c'est Red Tornado et Vixen. Point. Voilà, en gros, il s'est pas passé grand-chose, ça a été long et bon, alors j'espère qu'au moins, tu vois, Vixen sortira comme un personnage extraordinaire
Ouais, puis
de la fin de GLA, quoi, mais bon.
on a encore de belles surprises et de beaux coups de gueule avec la GLA dans les mois à venir. Donc...
Et ça s'arrête, ce volume-là prend fin à un moment donné ou
Non, 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 il est toujours,
Ah, d'accord.
toujours, c'est toujours en cours.
Ok.
Enfin bon, en tout cas, même si l'épisode m'a déçu, c'est toujours mieux que la dernière petite bouse du magazine, comme tous les mois. Le Titans, donc cette fois-ci, ils sont en droit au numéro 6. Écrit par Judd Winick, dessiné par Julian Lopez, ancrage de Prentice Rollins et Beat. On a la fin de l'arc avec Raven et les sept
Avec le
péchés
reste des frères
capitaux.
aussi, les restes des péchés capitaux,
J'ai vraiment
super.
pensé à toi, puisque je me suis dit, ça y est, ils sont plus que trois. Ils ne sont
Voilà.
plus que trois. Ils sont enfin six, hein, et sept
Alors le seul
avec
que j'ai apprécié,
Raven.
c'était Paresse quand même. Hein. Ouais.
Bon, bah voilà, hein. Ça se termine aussi vite que ça a été long à venir.
Et puis quelle conclusion, franchement, hein. Le dialogue avec Raven à la fin, c'est extraordinaire.
Mais tout est forcé, tout est... Y a rien de bon là-dedans, quoi. J'arrive pas à trouver quelque chose de vraiment intéressant qui me donne envie de lire la suite, quoi.
On avait l'impression qu'au fait, il avait à la fin du mois, il lui restait ça à faire, et qu'il se disait, bon, allez, allez, vite, je vais faire un truc là, j'ai 1 heure pour écrire mon truc, et voilà, je vais expulser ça vite fait, et on n'en parle plus. Ça donne vraiment cette impression-là de travail, tu sais, de dernière minute, et je sais pas, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien, c'est long, voilà,
Ah, puis
c'est
bon,
toujours la même.
pour ajouter à la connerie quand même ambiante de cette série, c'est que non seulement on nous refait encore une fois une histoire sur Trigone en début, mais juste après on enchaîne sur Jericho encore. Enfin, ça a
Ouais.
déjà été fait par des gens qui sont beaucoup plus adroits avec leur crayon. Voilà quoi,
Ouais.
moi j'ai lu des histoires avec Trigone qui étaient vachement mieux, et j'ai lu des histoires avec Jericho qui seront sûrement mieux. Alors je l'ai pas lu, hein, je peux me tromper, ce sera peut-être génial, mais enfin bon, vu comment c'est parti, j'y crois pas une
Il y a
seconde
très
quoi.
peu de chance, à mon avis.
Voilà, c'est le retour de Jericho, une fois de plus, en plus dans un corps de Bizarro Superboy. Je veux dire, tout,
J'aurais
enfin.
dit Bizarro, tu vois, moi.
Ben, ça se voit, il a le t-shirt de Superboy en fait. Il a le
Oui, il a le
t-shirt
t-shirt, mais
noir.
la gueule de Bizarro, on
Ben oui,
dirait.
c'est pour ça que je dis que c'est Bizarro Superboy en fait. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul
Super
Bizarro,
Bizarro
c'est
Boy.
tout un monde. Enfin bon, voilà, c'est. Je trouve que c'est les idées les plus ridicules qu'on aurait pu mettre dans les Titans, ben, on y a droit. C'est-à-dire tous les clichés.
Oui, on a l'impression de relire 150 fois la même chose, parce que comme tu le disais, on a déjà eu 36 000 sagas avec Trigon, etc. Avec Raven qui pétait les plombs. Et puis le Superboy qui revient à la vie, même si c'est pas lui là, et que c'est quelqu'un d'autre dans son corps, on l'a déjà eu aussi.
Ah, puis bon, Jéricho, quoi, encore.
Oui, et ça aussi on l'a eu. Donc en fait c'est un espèce de condensé de tout ce qu'on a eu.
Qui dit Jéricho dit qu'il y aura forcément Destro qui va passer dans le coin. Bon, bah voilà, quoi,
Ouais.
ça. Enfin, c'est trop cliché, quoi.
Enfin bon, voilà.
Bref. Ouais, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, malheureusement. Hein.
Non, c'est mauvais.
Et puis même au niveau dessin, ça casse pas trois pattes à un canard, donc.
Ah non, c'est
C'est.
plutôt moche.
Bah, je dirais pas jusqu'à dire que c'est moche, c'est moyen quoi.
C'est moche. Si c'est moche.
Non, pour moi moche c'est du Larry Strowman quoi. Ça c'est moche.
Voilà. Ouais. Non, c'est du
Non,
horriblement moche, on va dire.
là c'est franchement c'est juste moyen quoi. C'est,
Ah, c'est...
disons que c'est pour moi ce comic là, c'est toutes les mauvaises idées reçues que les gens peuvent avoir sur les comics en général.
Ouais, sur les
C'est-à-dire que
comics.
oui sur les comics, oui j'ai oublié le, je m'en suis rendu compte, je pensais que ça passerait inaperçu mais.
Mais non.
Dommage. Voilà, pour moi, si on veut dégoûter clairement quelqu'un des comics qui a déjà un mauvais a priori à la base, on lui fait lire ça, c'est bon.
Bon, si vous voulez perdre un ami ou si vous voulez vous en débarrasser, achetez-lui DC Universe.
Donc voilà, bon, on va pas rester plus longtemps là-dessus. On va passer maintenant à la partie librairie. Et on va commencer avec le gros 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 pavé, injustement appelé Batman le cœur de silence. Donc un énorme pavé de 12 épisodes de Detective Comics. On va les prendre par histoire. Alors la première histoire, elle est c'est le numéro 829 et 830, écrite par Stuart Moore et dessinée par Andy Clark, dessinée et ancrée. Bah, c'est une petite histoire classique avec des terroristes. Bon,
Avec un terroriste
oui,
surtout.
enfin avec un terroriste. C'est une histoire de terroristes en général. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Ouais.
Bon, le truc est pas, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas le super épisode qui va rester en mémoire.
Non, c'est juste un épisode comme ça, un apéro, quoi, on va dire.
Bah, de toute façon, c'était un petit fill-in dans le run de Dini, donc.
Voilà, ouais. Et bah, comme mis dans un bouquin comme ça, c'est pas gênant. Ça permet de rentrer tranquillement dans l'univers de Batman. Bon,
Bah, quand le reste
enfin
est
voilà.
bon derrière ensuite, c'est sûr. Parce que c'est vrai que le
Oui.
reste est mauvais, ça change rien, quoi.
Ouais, non, mais là, c'est là, ça va, quoi. Comme entrée, on va dire, comme apéro, ça va, c'est correct. Puis moi, j'ai bien aimé au fait, les pouvoirs, enfin, pas les pouvoirs, mais le mec qui projette donc un explosif liquide. Ça m'a fait marrer comme idée.
Bah, ouais. Moi,
Ouais, je sais pas.
pareil. Je sais pas. C'est le côté gel un peu qu'on voit avec. C'était comment le piégeur là? Seulement en explosif.
Ouais, je sais pas, enfin moi ça m'aime même pas. Non, pas plus que ça en fait. Je sais pas, enfin, je me demande un peu quel a été le but de cette histoire, à part faire un fill-in, peut-être nous montrer que Bruce Wayne s'occupe des problèmes du monde.
Ouais,
Ouais.
sont fin, voilà quoi. De toute façon, c'était clairement fait pour boucher des trous, hein, c'est clair. Mais je me demandais là, au fait, les épisodes après ceux-là, après ces deux-là, on les a eus déjà dans Superman Batman, non?
Je crois, ouais.
C'est des épisodes de Dini, parce que là, c'est pas possible, on ne peut pas avoir un trou de 10 épisodes.
Je crois, je vérifie, j'en ai pour deux petites secondes, mais normalement, oui, je crois qu'on les a déjà eus. Hein. 831, c'était quoi? Oui, c'était Paul Dini avec, avec Harley Quinn.
Ouais, donc on l'a eu celui-là. Ok. Oui, donc là ils en ont profité pour nous mettre ces épisodes qu'on avait ratés entre guillemets, mais même s'ils sont pas forcément
Non, mais
utiles.
bon, ils sont quand même sympas à lire, donc il y a pas de souci là-dessus. Hein.
Bah, au fait, je suis en train de me dire quelque chose, mais je le dirai peut-être à la fin justement, puisque ça concerne la fin du bouquin.
D'accord.
Donc voilà.
On passe au 841, écrit par Paul Dini, dessiné par Dustin Nguyen, ancré par Derek Friedel. De toute façon, ce sera la même chose pour tous, à l'exception du 842 qui est écrit par Milligan. Alors, le 841, c'est une histoire avec le Madateur,
Ouais.
enfin, le Chapelier Fou en français. Petite histoire sympathique. Un Batman classique, en fait.
Ouais, voilà, sans plus. Pareil, ça monte crescendo. C'est ça qui est pas mal dans ce bouquin, c'est que les histoires deviennent de plus en plus passionnantes au fil des pages. Donc là, effectivement, bon, il se passe pas grand-chose. Il y a un petit twist, mais vraiment super léger.
Bah,
En
le fait
fait.
qu'il soit pris à son propre piège, moi j'ai trouvé ça génial, quoi.
Oui, non, voilà, c'est le petit twist marrant de l'histoire. Et puis nous ressortir ces deux vieux persos, parce qu'en fait ils existent depuis super
Bien
longtemps, hein,
sûr, ouais.
Tweedledum et Tweedledee.
Ils ont toujours
Mais
accompagné le manateur, ou
et
presque.
au fait, ouais, enfin au début, je crois qu'ils sont apparus tout seuls. Ils faisaient équipe. C'était deux frères qui faisaient équipe, sans être avec le Chapelier Fou à la base. D'ailleurs là, ils expliquent qu'il y en a un qui est mort et qu'il a été remplacé par un autre, etc., etc. Enfin bref. Et puis bon, il y a tout ce côté aussi, j'ai bien aimé la petite galerie de personnages qui entourait le Chapelier Fou, tu sais, tous ces...
Tout ça, ouais, le morse,
Ouais,
etc.
enfin
quoi.
voilà, quoi, ça m'a fait marrer. On retrouve bien l'ambiance au fait des dessins animés donc qui étaient aussi scénarisés par Paul Dini,
C'est
quoi.
exactement ce que j'allais dire. C'est clairement la même ambiance que le Batman Animated.
Ouais, et moi quand je lis ça, j'ai carrément les voix qui me reviennent en tête, tu vois, les voix des personnages. Bon, je sais pas si ça vous fait ça vous, mais
Non,
moi
du tout, mais
c'est. Donc
ni idée.
voilà.
T'en as pensé quoi
Non
de
plus.
celui-ci?
Bah, comme le premier, c'est-à-dire sympa à lire, mais sans plus.
D'accord.
C'est-à-dire que, ouais, c'est comme une série Z que tu regardes à la télé tard le soir. C'est sympa, mais je sais pas si je regarderai un super bon souvenir pendant longtemps.
Ok.
Ah bah, moi je trouve ça déjà, faut le dire aussi, je trouve ça super plaisant en français de lire enfin 12 épisodes de Detective Comics à la suite. C'est quand même extraordinaire pour être signalé, parce que ça arrive tellement peu en ce moment. Et d'ailleurs, la solution à mon avis pour Panini, ce serait de nous sortir effectivement des big books avec Action Comics, Superman, etc. Parce que là, on prend un retard tellement hallucinant que voilà, ce serait vraiment la meilleure solution. Par contre, là où ça me fait gueuler à chaque fois, c'est le prix, quoi. 29 euros pour ça, alors que c'est vraiment
Ouais, mais bon, 29
papier
euros, 12
pourri.
épisodes, quoi. 12 épisodes, sachant qu'en plus, il y en a un double. Ça fait
Ouais, mais
29
bon.
euros, 13 épisodes. Quand tu fais le prix de revient à l'épisode, c'est pas si cher que ça, hein.
Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ça doit pas leur coûter cher à produire, hein, ce type de bouquin, parce que c'est vraiment, vraiment du papier pourri.
En même temps, ils doivent pas le sortir à aussi gros tirage qu'ils sortent un Big Books Marvel, par exemple.
Non, mais je crois que c'est à peu près tous les mêmes tirages, hein. Ça tourne autour des 5 000 ou un truc comme ça, à mon avis.
Ouais, ce qui est pas énorme, c'est vrai en plus. C'est vraiment pas énorme.
Donc le prix, il est adapté par rapport au tirage. S'ils en faisaient par exemple 100 000, ou
Mais.
le prix serait beaucoup moins cher, on va dire.
Non mais attends, mais 5 000, en comptant toutes les Fnac, Virgin, etc., tous les réseaux de distribution comme ça
Environ,
me
ouais.
paraît. Ah
Aux
ouais, c'est
dernières
quand même.
nouvelles, c'était 5 000. Et pour la petite anecdote, c'est-à-dire que, en tout cas ici en Suisse, chaque BD retournée est détruite. Elle n'est pas à stocker, ça coûte trop cher.
Putain, c'est hallucinant quand même ça.
C'est-à-dire, si un libraire prend par exemple, on va dire, 10 Batman comme celui-ci, s'ils en
Ouais.
retournent 5, les 5 sont pas stockés, ils sont complètement détruits.
Ce qui n'arrive pas dans les comic shops, puisqu'en général, enfin même tout le temps, ils gardent leur stock. En fait, c'est uniquement dans les réseaux de grande distribution qui renvoient et que c'est détruit. C'est ça?
Bon, même les petites librairies, hein. Ça, ils peuvent pas non plus stocker tout.
Ouais.
Ça fait mal au derche, hein, quand on sait ça.
Ouais, mais ça coûte moins cher que stocker. Stocker,
Ça vaudrait le coup
ça te.
d'intercepter le courrier quand même, vu que ça va être pour détruire.
Ouais. Moi, franchement, je pourrais entreposer
J'en ai
ça
vu, hein. Moi, je suis
dans mon
allé chez des
Bépara, là.
distributeurs à des moments. Il y avait des bennes entières de comics, de BD, de livres et tout ça. Et j'ai demandé voir si je pouvais en prendre un ou deux vu qu'ils allaient être détruits et ils m'ont pas laissé.
Ce qui est écœurant quand même.
Ce qui est quand même écœurant, c'est-à-dire que ça coûte moins cher de détruire que de retour, que de stocker. C'est pour ça qu'il y a autant, si tu veux, de rupture de stock.
Ouais. Ouais, c'est triste.
Ouais.
Enfin voilà, bon. Donc, on revient aux histoires, non?
Oui, on va continuer. Bon, on va passer au 842, hein, donc celui écrit par Peter Milligan. Un épisode totalement à part du reste, en tout cas, puis même de la trame qu'impose Dini. Puisqu'on se concentre sur le Suit of Sorrows. Je me rappelle plus comment tu m'as dit que ça s'appelait en
La
français.
côte des tourments.
Voilà. Désolé, mais moi je lis la VO, donc je peux pas inventer la traduction. Alors, c'est vrai que cette histoire peut paraître au premier abord assez...
Surprenante.
Bah, j'allais dire en décalage, en fait.
Bon, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est que j'ai l'impression l'histoire était super bonne, quoi, l'idée en tout cas générale. Et après, c'est un peu, ça a été un peu conclu un peu vite. Mais tu me dis que ça prendra de l'importance après.
Ben voilà, c'est ça. C'est que ça aura de l'importance d'ici... Bah, après RIP, en fait.
Pour moi, ça a été quand même une bonne surprise parce que déjà, ils font des allusions à l'ordre de Saint-Dumas, ce qui est quand même rare. C'est-à-dire que ça fait appel au fait à Azrael. Donc ça m'a étonné déjà que Milligan revienne là-dessus et qu'il y arrive en 22 pages quoi quand même. C'était balèze d'arriver à comment dire à parler de tout ça en si peu de pages. Et oui, donc que dire de plus?
Mais moi déjà, je me rappelais pas qu'Atalia lui avait filé l'armure, hein, pendant le Resurrection of Ra's al Ghul.
Ah
Non, mais je crois
d'accord.
qu'il lui envoie, hein, je crois.
Ouais, enfin, mais
Ça sort
apparemment.
sur une lettre, donc à mon avis, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle lui envoie plutôt que lui donner en main propre.
Mais de ce que je me rappelle, moi j'avais cru comprendre que ça se passait pendant Resurrection of Ra's al Ghul, mais ouais, bah, en tout cas c'est ce que j'ai cru qui était sous-entendu, mais du coup je peux me tromper.
Ah, je l'ai pas
Moi je sais
compris
pas,
comme
moi j'ai
ça,
plutôt
moi.
pensé à cette ouais, à livre, ouais, envoyé à cause de la lettre surtout.
D'accord.
Parce que je veux dire, sinon elle lui aurait dit directement, bah c'est une tunique, machin, etc. Là, c'est
Parce que
plutôt.
moi, de ce que je me rappelais, grosso modo, c'est elle avait dû lui filer l'armure et tout, puis qu'après, elle lui envoyait cette lettre pour lui expliquer, quoi. Mais bon.
Je m'en souviens plus pour te dire exactement.
C'est pas grave, de toute façon, ça n'a aucune importance.
Voilà. C'est juste du pinaillage.
Voilà, c'est ça. Et encore, pinaillage, non?
En tout cas, le principe de l'armure qui rend fou, bon bah c'est assez marrant. Et voilà, donc c'était qui a aussi des références effectivement à Talia, à Ra's al Ghul et tout, font que bah je trouvais ça intéressant. Et j'avais jamais fait le lien entre au fait l'histoire d'Azrael et l'histoire de Ra's al Ghul. Donc ça peut effectivement donner lieu à des perspectives intéressantes.
Et comme je disais tout à l'heure, ce sera important plus tard, donc même si cet épisode de premier abord paraît un petit peu en décalage et est presque inutile comparé au reste en tout cas de ce Big Book, ça aura une importance et comme je ne doute pas en tout cas que Panini publie bien la suite, voilà, on en reparlera à ce moment-là comme quoi cet épisode avait son importance. On passe au suivant, donc la retour de Dini au scénario et ce jusqu'à la fin, épisode 843 à 844, un arc sur Scarface. Je sais pas, moi j'ai bien aimé cet arc, ce petit. Bon, un arc, si on peut appeler ça un arc, c'est en deux parties, mais
Ah
j'ai
bah moi
trouvé ça
j'ai.
sympa, quoi, avec une Zatanna qui déclare sa flamme à Bruce.
Ouais.
Bon, en même temps, on sentait un peu venir depuis quelques numéros, ça. Sur les petits amis d'enfance qui se retrouvent un peu après.
Bien sûr, mais vu les événements d'Infinite Crisis, c'était pas gagné, quoi.
Non.
Mais bon, Identity, pas Infinite.
Batman, justement... il est fidèle à lui-même, voilà. C'est-à-dire qu'il refuse l'amour.
Et justement, moi, ce qui me dérange là-dedans, en fait, ce dont j'ai peur, c'est que tout ce que met en place Dini, c'est-à-dire la relation amoureuse entre Bruce Wayne et Zatanna, se soit complètement laissé tomber ensuite par les autres scénaristes. Et ce serait dommage. Moi, j'aime bien cette idée. Enfin, tu vois, ça m'intéresse, quoi. Bon, et d'un autre côté, c'est pas étonnant, puisqu'effectivement, Dini est assez fan de Zatanna, de Catwoman.
Il nous le montre vraiment beaucoup qu'il aime Zatanna. Et ouais. D'ailleurs, il a sa propre série sur Zatanna maintenant.
Voilà. Et puis il y a aussi tout le côté Gotham Sirens, etc. Donc en fait, il adore les
personnages féminins. Ouais.
Les personnages féminins qui tournent autour de Batman, mais tant mieux puisqu'il les écrit assez bien. C'est toujours assez drôle d'ailleurs. Et donc voilà, donc deux épisodes plaisants. Je sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses sur Zatanna.
Non, mais il y a le pareil la nouvelle ventriloquiste en fait qui est.
Ouais. Le nouveau Scarface.
Qui est assez importante, le Scarface qui se retrouve enfermé dans la cave, dans la salle des trophées. Non, enfin je sais pas, l'épisode, même si. C'est pareil, enfin pris indépendamment, ça, on se dit, bon, ouais, ok, c'est des histoires sympas, mais voilà. Et c'est vrai qu'avec plus on avance et plus on comprend pas mal de choses, et en fait, a posteriori, les épisodes sont intéressants quand on a lu la suite.
Bah, en tout cas, là on apprend surtout les nouvelles origines, enfin les origines de la nouvelle Scarface. Du nouveau Scarface, puisqu'on l'avait déjà vu ce nouveau Scarface il y a quelques épisodes, mais là au fait on voit que la nouvelle Scarface a trouvé le pantin parce qu'au fait on assiste à cette scène, mais du point de vue de Batman il y a plusieurs mois, on a assisté à cette scène, c'était un arc de Robinson.
Bah, la mort du ventriloquiste en fait.
Voilà, la mort du ventriloquiste était dans l'arc où Harvey Dent redevenait double face. Et donc c'était il y a même plusieurs années quoi maintenant. Puisque...
Je crois que c'était Face to Face le nom de l'arc.
Voilà, exactement. Et donc on assistait à cette scène, mais vu...
Au tout début de One Year Later, je crois.
Voilà, c'est ça. Et donc là, je trouve ça assez marrant que Dini ait eu l'idée de faire coïncider ce moment avec ces épisodes-là. Moi, ça m'a fait marrer, ce petit clin d'œil.
Même si c'est à la fin du tome que t'en as le temps de réfléchir à tout ça, après, en remettant les choses en relation, c'est vrai que quand j'ai su que Dini arrivait sur Detective Comics, je me suis dit, Paul Dini sur Detective Comics, quand même, enfin, j'avais pas l'impression que ça collait, quoi. Et pourtant, le mec s'en sort excellemment bien, je trouve. Il arrive à nous pondre des scénarios qui se tiennent les uns aux autres, comme on verra par la suite, et il y a finalement une bonne ambiance qui se dégage de l'ensemble.
J'avais peur, moi, que ce soit un petit peu trop gamin, entre guillemets.
Bah exactement, pour Detective Comics, ça me paraissait trop, trop enfantin, quoi.
Ouais, et finalement, d'ailleurs, on le verra avec l'arc suivant, c'est même très très dark et parfait pour Batman.
T'en as pensé quoi, Mick, de cette histoire sur le ventriloquiste?
Bah déjà, on sait pourquoi, si tu veux, bah là, le petit truc qui m'a plu à moi, c'est de savoir, bah, à un moment, on savait pas où il avait disparu le Scarface. Mm. Et là maintenant on sait pourquoi exactement et bah qui est cette femme quoi. Donc ça, on en apprend un peu plus sur sur tout l'entourage de Batman, les méchants et tout ça. Hein. Donc c'est quand même assez dense.
Et surtout qu'elle a connu Bruce avant.
Oui.
Aussi. Et d'ailleurs on le reverra dans l'arc suivant. On en saura un peu plus.
Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Non, bon, je garderai ça pour quand on attaquera Hush. Le 845 maintenant, un des épisodes qui m'a fait peut-être le plus rigoler.
Oui, surtout Batman en chatter fou, on va dire.
Voilà, ouais. Puis, tous les personnages de l'univers Marvel, de l'univers DC, en tout cas tous les personnages détectives de l'univers DC se retrouvent sur ce chat. Puisqu'on a le détective Chimp, on a le Riddler, on a Oracle. J'ai trouvé ça excellent comme idée. J'ai vraiment rigolé, mais vraiment tout fort, ce qui m'arrive pas souvent quand même. Mais c'est surtout le moment où on découvre qui est, enfin que le dernier qui manquait c'était le Riddler et j'ai trouvé ça génial quoi.
Ouais. Et puis même le dialogue est super marrant parce qu'il reprend vraiment les codes du chat. Il y a du lol, etc. Et de lire ça dans un comic c'est très drôle. Et puis que Batman assiste ça tout stoïque en buvant son café. Enfin tu vois c'est hilarant comme scène. Alors, c'est vraiment original.
Il y a que le Black que j'ai pas réussi à retrouver qui c'était. Alors j'ai pensé que c'était peut-être un personnage qu'on avait vu dans Gotham Central ou ce genre de choses-là, mais j'ai pas réussi à retrouver qui c'était exactement.
Alors là, comme ça, je dois dire que je ne sais plus du tout les persos. Je me rappelle du singe,
Oui.
qui est bien connu.
Bah, Détective Chimp, ouais.
Voilà. Et Oracle, bien évidemment. Mais fin, cette idée est super sympa de détective comme ça qui se retrouve sur le net. Il y aurait même matière quasiment à faire une série. Quasiment. Avec le Riddler, le singe, Oracle, etc., qui se retrouvent pour mener à bien des enquêtes, mais bon.
Ah, ça aurait bien porté, ça aurait été bien dans Detective Comics, justement.
Et oui, ouais.
Backup, par exemple.
Plus que Batwoman, enfin bon.
Et bah, on a aussi la façon dont il laisse crever le Riddler à la fin, quand même. Je trouve que c'est quand même.
Oh, tu sais pas s'il va crever
Non,
vraiment ou
non,
pas.
enfin, oui, qu'il laisse crever, pardon.
On
C'est
se doute
une mauvaise
qu'il va
expression,
pourrir.
disons.
Ouais.
Qu'il le laisse pourrir dans son coin.
Oui, voilà.
Bah, je trouve que c'est juste. C'est-à-dire parce que le type, il a même pas, à mon avis, quoi, ils se rendent même pas compte du mal qu'il a fait dans le passé. Pour lui, c'est bon, quoi. Donc là, je trouve que c'est une juste vengeance de Batman, du genre, voilà, tu vas subir.
Ça, c'est un truc qui m'avait un petit peu déçu dans le run de Dinis. Il y a un truc que j'ai pas forcément apprécié, c'est le revirement du Riddler. En fait,
Ah, moi j'aime bien. J'aime bien au contraire.
bah,
Ça
ouais,
ouvre
bon, un
vachement de
revirement, c'est qu'il a arrêté
perspectives.
les crimes, mais ça reste quand même un pourri qui fait tout pour l'argent. Il a trouvé, il utilise, si tu veux, ses capacités de déduction et tout ça, de son amour pour les énigmes, on va dire, pour vivre, sans qu'il soit,
Ouais.
bah, si tu veux, poursuivi par Batman ou la police. Moi,
Ouais.
je trouve que ça reste un vilain, mais d'une autre façon, un escroc, on va dire.
Ouais, voilà, un
Ouais.
escroc, c'est exactement ça, ouais.
Donc c'est
Pas
pas
plus un
tellement un
voleur comme
revirement.
ouais. Pas un voleur, un simple escroc, quoi. Et
C'est même pas un escroc, c'est juste qu'il fait tout pour le pognon, mais il reste dans la légalité. Il est dans le gris, en fait.
moi j'ai tendance à préférer le Riddler comme ça, hein.
Oh bah
Plutôt qu'en
largement.
méchant, parce qu'en méchant, il est un petit peu plat quand même.
Bah, il y avait eu des histoires avec le Riddler qui étaient pas mal, mais j'ai l'impression que c'était dans Legend of the Dark Knight, donc ça rentrait pas dans la continuité. Donc bon, je peux pas comment dire rentrer dans le détail, puisque c'est vague comme souvenir, mais je pense que ça ne rentrait même pas dans la continuité du personnage. Il était bien plus jeune d'ailleurs dans les épisodes que j'avais lus. Donc
Ok, bon, on va attaquer maintenant la dernière partie et le plus gros morceau, même si c'est pas, même si pour moi ça ne justifiait pas qu'on mette comme titre Le Cœur de Silence. Donc c'est les détectives 846 à 850, c'est donc l'arc Heart of Hush, et donc c'est le retour de Hush.
ouais, qui est très bon. Enfin, moi, j'adore ce perso. Je sais pas vous, mais moi, je l'adore.
Moi personnellement, je trouve que Dini lui donne de la profondeur parce qu'avant
Ah
il
bah alors,
paraissait
attends.
plat quoi, comme personnage.
Alors, attends 2 secondes. Déjà, donc, c'est un perso qui a été créé par Loeb dans la saga Silence, en français. Ça
Ouais,
s'appelait, je crois,
Hush.
The Hush. Hein.
Hush en
Voilà.
anglais, tout court.
Hush, d'accord. Bon, Hush en anglais. Et donc, effectivement, il lui donnait des origines très basiques, on va dire. On n'en savait pas beaucoup. Mais ensuite, il y a quand même eu Gotham Knights avec le run d'Agile Lieberman. Je sais pas si tu l'as lu.
Non.
Alors, t'as loupé parce qu'il y avait vraiment de très très bons épisodes, dont un arc avec Poison Ivy qui était magistral, avec Hush, Batman et Poison Ivy. Et c'était vraiment vraiment grandiose. C'était très très bon et ça donnait déjà énormément d'épaisseur au personnage. Et ensuite, évidemment, arrive Dini maintenant, qui donne encore plus de consistance à ce personnage-là. Donc moi, je trouve vraiment que c'est un personnage qui, avec le temps, se bonifie énormément et qui devient de plus en plus intéressant.
Ouais, enfin, je
Moi, je
trouve.
trouve quand même qu'il prend plus de profondeur là-dedans qu'avant, même avec l'histoire avec Poison Ivy et tout ça, il restait quand même très très plat, je trouve. Là, au moins, rien qu'en sachant son enfance, ses motivations, toute cette un peu de folie qu'il a envers Bruce Wayne, la jalousie et tout. Je trouve que ça rend le perso en tout cas plus crédible et plus charismatique. Très
Ouais.
sadique aussi, mais.
Bah, déjà, ce qui est bien, je trouve, c'est que on nous redonne ses origines pour ceux qui ne connaîtraient pas le perso, qui n'avaient pas lu Hush.
On les approfondit quoi même.
Dès le début en plus, dès le début de l'arc, c'est la première chose qu'on te donne, c'est qu'on te redonne ses origines. Et ça, c'est une bonne chose. Ça permet, ceux qui connaissaient pas, parce que bah, finalement, Hush, ça commence à avoir de la bouteille maintenant, hein. Ça fait 4-5 ans au moins, sinon plus, oh, même plus que ça. Donc voilà, enfin, les lecteurs n'ont pas forcément lu. Donc déjà, ça c'était une bonne chose. Donc c'est déjà bien amené. Vu qu'il n'y a pas de page de récap chez DC, ça permet au moins de pouvoir se souvenir de quelques trucs. Ensuite, il y a pas mal de choses qui sont sympas. C'est qu'on a pas mal de retours sur les derniers épisodes, justement. On revoit les deux compères du Chapelier Fou, en tout cas ceux qui ont essayé de le malmener. On les revoit passer, on revoit le Morse. Et puis surtout,
La charpentière aussi.
Ouais, la charpentière. Et puis bah on voit surtout Peyton Riley de nouveau quoi.
Ouais.
Et donc là on comprend un peu plus de trucs. Et je trouve que ça ajoute énormément de profondeur aux petits épisodes qu'avant où on pouvait se dire c'est sympathique mais ça va où quoi au final. Et là tout est relié, tout se tient et ça c'est génial. Au-delà, en fait pour moi ça va au-delà de l'histoire de Hush, c'est que ça tient tout son run et si son run s'arrêtait là, ce serait un très très bon aboutissement.
Ouais, mais
Fort bon
ouais, ben
gamin,
non,
hein.
mais j'allais te parler justement du fait qu'il n'y avait pas la suite. Mais bon, autant le dire tout à l'heure en fait pour conclure.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a aussi quand même le fait que le mec aille au point de faire de la chirurgie esthétique pour se faire passer pour Bruce Wayne.
Bah, il a l'air de prendre sa place, quoi.
Oui.
Ouais. Mais ça, au fait, c'était déjà dans Gotham Knights, il avait déjà essayé de se faire passer pour lui, il me semble, ou de changer de visage. C'est-à-dire que, au fait, à la base, donc, c'est son identité, c'est Tommy Elliot, hein, son identité civile. Et dans Gotham Knights, à un moment donné, Batman affrontait Hush, et d'un seul coup, il retrouvait Tommy Elliot. C'est-à-dire que il y avait eu tout un jeu de faux semblants. Où il arrivait à lui faire croire que Hush c'était pas lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était pas que Hush c'était quelqu'un d'autre quoi en fait, sous le masque, sous les bandelettes. Et donc changer de visage, c'est vraiment un truc qui est très propre à ce personnage.
Mais bon, là il vient quand même jusqu'à pousser à prendre le visage de Bruce
Ouais.
Wayne.
Puis bon, il pousse le truc à le faire lui-même surtout.
Oui, aussi oui.
On va dire quand même que le côté sadique puis un peu psychopathe, il est là.
Et comme il dit, il s'injecte assez d'anesthésique pour ne pas crier, mais il a besoin de ressentir la douleur.
Tenir les souvenirs à vif, quoi.
Ouais. Mais
tout, c'est de la folie pure. Mais je trouve moi, d'un coup, il a pris une plus grande importance comme méchant. Il a plus de charisme. Il est sadique. Il s'attaque vraiment là où ça fait mal pour Batman.
Il y a un petit truc par contre qui me gêne avec ce personnage, c'est le fait qu'il soit toujours obligé de faire appel à d'autres ennemis de Batman. Et ça commence sérieusement à me fatiguer, quoi.
Bah, c'est juste pour le distraire, en même temps...
Ouais, mais bon, là... Alors, il nous avait déjà fait le coup avec le premier arc où il est arrivé, il nous a fait le coup aussi quand il avec le Joker, tout ça. Bon, là, il nous fait appel à quoi? Au Scarecrow, et il nous fait appel à Mr. Freeze.
Alors, ouais, mais le Scarecrow, en fait, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la relation qu'il avait eue avec lui déjà quand il était tout petit. C'est-à-dire que il est quand même lié au Scarecrow. Quoi,
ouais,
en fait,
alors
à la
ça
base.
Par contre, ça j'ai trouvé ça forcé, tu vois. Disons que pour moi c'est un peu facile. C'est
ah
histoire
bon
de le lier un peu plus. J'ai pas trouvé que ce soit quelque chose de franchement une bonne idée même. Au contraire.
Bon, moi au contraire, moi j'aime bien quand tout rentre dans l'ordre. J'aime bien ce côté chez Dini de voilà, c'est-à-dire de vraiment nous expliquer comment se sont passées les choses. Et d'ailleurs, il y avait un truc aussi intéressant, c'est que il nous montre ce qui s'est passé lors du dernier affrontement entre Batman et le Joker. Parce qu'en fait, on était resté là-dessus sur Gotham Knights et on savait pas du tout ce qui se dépassait. Et donc là, il nous explique comment il s'en est sorti, etc. Quoi, ce qui s'est passé ensuite. Ce qui est pas plus mal puisque il aurait pu aussi bien réutiliser le perso sans nous expliquer vraiment ce qui s'était passé lors de la dernière rencontre.
Ouais. Bah, là, à la rigueur, comme je l'ai pas lu, ça m'a pas plus gêné que ça. Je connaissais l'histoire vite fait, mais pas plus quoi. Enfin, juste un résumé quoi.
En d'autres termes, la dernière fois qu'on l'a vu, il était quasiment mort, quoi.
Oui, bah oui, bien sûr.
C'est un personnage qui, on se demandait même si, en fait, ça aurait pu s'arrêter comme ça, mais on aurait pu ne jamais le revoir. Donc déjà que Paul Dini le réutilise, c'était une bonne surprise.
L'autre truc, l'utilisation du Venom, pareil, un peu gros, quoi. C'est en fait, moi, c'est cette constante, constante obligation du personnage à utiliser des éléments propres à Batman. Alors qu'on voit qu'il est très bien capable de lui tenir tête en combat ou quoi que ce soit.
Ouais, mais enfin, c'est dans sa psychologie quand même de tu vois, d'utiliser des armes de Batman contre lui.
Ouais, mais disons, pour moi, il serait temps qu'il change.
Et puis surtout, c'est encore un rappel à la continuité, ça, de le Venom et tout, ça fait vraiment partie du monde de Batman.
Oui, non, mais enfin, bon, c'est pas le fait qu'il fasse appel à ça, c'est le fait qu'il appelle toujours, enfin, que Hush soit toujours obligé de s'entourer d'ennemis de Batman, il pourrait, je sais pas.
En même temps, tu sais, si tu veux, c'est quelqu'un que, comme c'est dit à la fin, son plus grand trésor, on va dire, c'est sa fortune. C'est ce qui lui tient le plus à cœur. Et il utilise cette fortune, bah, pour engager plein de monde. D'un côté, c'est utiliser ce qui lui plaît le plus, quoi.
Ouais.
Donc
non,
il engage des gens de tous les côtés, Bah, c'est comme acheter l'hôpital puis prendre les petits zombies puis les droguer, quoi.
Ça par
Parce
contre,
que
tu vois, j'ai.
vu qu'il peut s'opérer tout seul, pourquoi il avait besoin d'autant de personnes?
Ouais.
Mais c'est de nouveau la même chose, à mon avis, c'est plutôt l'attrait avec l'argent de tout ce qu'il peut se payer ou faire ou contrôler.
Mais je sais pas, pour distraire Batman, justement, le distraire un peu plus, il aurait pu très bien aller engager les Rogues.
Il aurait pu. Mais bon, peut-être qu'ils n'étaient pas disponibles, peut-être qu'ils étaient sous contrat avec quelqu'un d'autre, ou va savoir.
Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est ça qui me gêne, c'est le fait qu'il utilise constamment des ennemis de Batman, en fait. Bon, enfin, en même temps, c'est pas grave, hein. L'histoire est bonne, donc
Même
c'est
très
pas.
bonne.
On a aussi surtout quand même l'implantation de cette future guéguerre, on va dire, enfin même plus que guéguerre, c'est carrément la guerre ouverte entre Catwoman et Hush,
Bon, c'est compréhensible cette guerre quand même, hein.
et qui va être plus qu'importante pour la suite.
Mais oui, et puis aussi on l'a pas précisé, il y a aussi effectivement donc là-dessus le fait qu'il lui pique son cœur quand même. Je trouvais
Oui.
ça énorme dans
Quoi,
l'histoire.
qu'il lui pique son cœur, qu'il le garde, et puis qu'en plus elle lui a,
Ouais.
il la garde en vie, puis il l'envoie aux gens, quoi, c'est surtout ça.
Ouais.
C'est une perversion totale, c'est du sadisme, mais voilà, fallait trop. Pour remplacer un peu le Joker qui était déjà bien sadique, pour changer un petit peu, je trouve que Hush il fait très bien l'affaire et il est devenu encore plus sadique.
Ouais, et puis moi j'aime bien son côté chirurgien, quoi, chirurgical. Je trouve qu'il y a, tu peux faire des choses excellentes avec ça.
Mais là, les perspectives sont énormes quand même, parce que ok, il est sans le sou, mais il a quand même le visage de Bruce Wayne toujours. Donc les perspectives sont assez énormes.
Mais est-ce qu'il l'a encore vu qu'il crame à la fin sur le Batcopter?
Il se prend les bandelettes dans l'hélicoptère, dans l'hélice, c'est ça, hein?
Ouais,
Et
mais il a
ça
juste.
explose surtout avec le
Ça
feu et
c'est
tout,
énorme.
donc
Ça c'est énorme.
il a juste les poings qui sautent. Bah, sur la dernière image, on le voit encore avec les bandelettes, et de toute façon.
Oui, mais tu vois aussi le Batcopter exploser complètement. Donc tu
Non
peux
mais
dire
de.
qu'il est brûlé ou.
Ben oui, mais au pire, il se refait la face.
Mais là, il n'a plus aucun moyen, donc faut voir comment ça va évoluer.
Et donc, si je peux me permettre, j'étais moi, enfin le seul reproche que je fais que je ferais à cet ouvrage, c'est que, effectivement, après normalement il y a deux épisodes où Catwoman affronte Hush, et on les voit pas là, on les a pas du tout dans cette édition. Et je trouve ça dommage parce que c'est
Je
vraiment,
pense qu'on les aura après Batman en répit.
ouais non mais c'est vraiment dommage parce
Mais
que le
non, c'est pas
bouquin.
dommage, non. Il y a des références à la fin de RIP, donc
Ah ouais d'accord oui.
bah oui. Donc s'ils voulaient se péter le truc, il n'y avait pas mieux, quoi.
Ouais. Ouais, effectivement. Mais voilà. Là, sachant ça, tu vois, ça me faisait une petite impression de qu'il manquait vraiment un élément. Je me disais, mince, ça se termine là. Donc bon, effectivement, s'il y a des éléments sur RIP.
Voilà, c'est pour ça, c'est par rapport à cette fin de RIP qu'ils peuvent pas se permettre de publier ça, quoi. Puis bon, il y avait 13 épisodes, hein. En rajouter encore deux, ça commence à faire beaucoup, hein.
Ah non, mais par contre, s'ils auraient
Enfin,
pu à ce
12
moment-là
plus un
virer
demi.
les deux premiers, tu vois ce que je veux dire, pour
Ouais.
mettre ces deux-là. Mais bon, effectivement, si ça spoile tout, c'était pas la peine. Mais par contre,
Ben, je me rappelle plus si ça spoil tout, mais en tout cas, je crois qu'il y a des allusions, donc bon.
mais voilà. Ben, moi, j'ai préféré ça, ayant lu RIP dans Batman, j'ai préféré ça aux épisodes de Batman, quoi,
Alors,
largement.
si j'allais y venir justement au fait que ce soit un tie-in de RIP, bon, à part le fait qu'on mentionne le Black Glove rapidement, et qu'on mentionne Jezabel Jett et encore,
Ouais. Oui, c'est léger, hein. C'est vraiment histoire de vendre, quoi.
c'est vraiment pour faire un tie-in, quoi. Mais bon, en même temps, on a une très bonne histoire, on va pas se plaindre non plus, quoi.
Bah, qui est meilleur
Mais c'est
que
vrai
ce
que
qui
là,
se passe dans RIP.
le fait que ce soit un
Enfin,
tie-in
je
de
trouve.
RIP soit pas vraiment justifié. C'est ça le petit souci. Même si de toute façon l'histoire par elle-même est bonne, donc elle mérite de se vendre. Donc à la rigueur, si ça se fait se vendre un peu plus avec le tag RIP dessus, tant mieux quoi, parce que l'histoire est très très bonne.
Et toi, Mig, tu préfères Mig, tu préfères RIP? Tu préfères RIP actuellement ou tu préfères ce que t'as lu là avec H?
Bah RIP, j'ai commencé avec les publications françaises, donc je ne sais pas la suite, donc je pourrais pas non plus trop me prononcer là-dessus.
Non, mais enfin pour le moment de ce que t'as lu,
Bah, pour l'instant, c'est un peu fouillis.
Bah avec
Maintenant,
deux parties, c'est juste, hein.
voilà. Donc je peux pas non plus juger tout un truc comme ça avec juste deux épisodes.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu que deux épisodes en français. Effectivement.
Mais c'est difficile de faire abstraction, hein. C'est pour ça que j'évite de lire en avance maintenant. C'est très difficile d'arriver à mettre de côté ce qu'on sait sans forcément que ça déteigne sur la vie. Oui, je voulais ajouter quelques petits trucs. Le style de Dustin Nguyen. Je suis pas un grand fan d'habitude du gars. Là, je trouve que son style, dans l'ensemble, passe très très bien pour ce que c'est faire, parce qu'il arrive à rendre ce petit côté un peu cartoony qu'a Dini avec l'Animated, enfin, en tout cas de la façon dont on imagine Dini avec l'Animated. Et chose très très forte, c'est qu'il arrive à vraiment modifier son style quand il fait des passages flashback, avec un côté très vieille photo et.
Ouais, vieille pellicule,
Ouais.
c'est très bien.
J'ai trouvé ça vraiment. Bon, en plus, il y a énormément de mouvements sur les pages, donc là, c'est pas trop un problème. C'est vrai que c'est vraiment fluide. Alors, même si je suis pas un grand fan de son style dans l'ensemble, voilà, ça se lit vraiment bien et c'est pas désagréable à l'œil.
Ah, j'en profite pour dire aussi que j'ai adoré aussi les passages effectivement de flashback où c'était super glauque quand même.
Ouais.
Donc là, enfin voilà, sur. À mon avis, Dini et Nguyen s'en sont bien démerdés quoi pour rendre ça.
Bon petit tandem,
Ouais.
ouais. T'en penses quoi, toi, Mick, du dessin dans l'ensemble?
Bon, moi, je trouve qu'il colle bien au scénario.
Oui, voilà. Pareil.
L'autre petit truc aussi qui me fait rire, c'est le fait que maintenant qu'il est avec Jezabel Jett et que ils sont fiancés, c'est comme par hasard à ce moment-là que Catwoman et Zatanna se réveillent, quoi.
Et voilà, non mais voilà. Et tu vois, c'est ça qui m'énerve, tu vois, c'est je me dis, ça va être au détriment de Catwoman, de Zatanna. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vois, quand tu te dis ça y est, il va enfin y avoir un rapprochement, bah non.
Mais c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. C'est à partir du moment où tu es maqué que ben voilà, t'as plein d'opportunités qui s'ouvrent. Tant qu'il y a
Ouais.
rien, tant que t'as rien, bah t'as rien. Et à partir du moment où t'as quelqu'un, hop, t'as plein de trucs qui s'ouvrent.
Ouais, mais enfin bon, c'est dommage. Là, justement, faudrait en profiter que ce soit pas la vraie vie pour faire un truc qui fonctionne, tu vois,
Ah,
pour une
il a
fois.
quand même roulé une pelle à Catwoman, hein.
En même temps, Batman, il a beaucoup freiné tous les trucs entre Zatanna, etc. Donc, c'est aussi de sa faute à lui.
Bah tiens,
Faut dire les choses clairement.
j'ai une question à vous poser. Laquelle vous choisiriez-vous? Qu'est-ce que vous préfériez, qu'il finisse avec Zatanna, avec Catwoman ou avec Jezebel?
Bah, d'un côté, je dirais bien Selina, moi, pour tout le passif. En même temps, avec Zatanna, ça ouvre tellement de possibilités que voilà, difficile.
Mais s'il rentre tard la nuit avec Zatanna, ça va se passer différemment. Hein.
Mais au moins, il pourrait avec elle, grâce à elle, il pourrait aller se téléporter directement sur les lieux du crime. Ça irait beaucoup plus vite.
Oui.
Mais oui.
Mais bon, l'autre, elle a un côté un petit peu dangereux aussi. Un
Puis
petit peu aventure.
quand t'as vois comment on peut lui faire apparaître son costume et tout, elle lui fait gagner vachement de temps.
Et en teinturerie. Bon, en même temps, il
Ouais.
est riche, il s'en fout.
Ouais, mais bon, c'est du temps d'économiser, le temps d'enfiler le costume et tout.
Bon bah moi Zatanna à mon vote, juste pour son look. Voilà, c'est tout. Je préfère Zatanna.
Y a aussi ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à Zatanna, c'est vrai, Dini a vraiment mis en avant ce pardon que Batman lui fait, en fait.
Ah oui.
On voyait déjà la chose arriver quand on avait lu des épisodes avec Zatanna il y a quelques mois de ça, je sais pas si t'en rappelles, Mig, qu'il y avait tout un truc, c'était avec le Joker, je crois.
Oui,
Ah, mais là,
elle
comme ça,
se
je m'en
fait
souviens
tirer
plus.
dessus. Oui, il y avait le Joker déguisé en Marilyn Manson qui tirait sur Zatanna et qui était sauvé donc par Batman.
Et là, en fait, là encore, il va un peu plus loin dans le pardon, et on voit que maintenant, voilà, le fait qu'elle lui ait effacé la mémoire, il passe outre, quoi.
Bah, il laisse quand même une porte de sortie, quoi, une porte ouverte pour si jamais un jour ça peut marcher leur relation.
Non mais c'est ça, enfin
Enfin,
c'est.
même plus loin que le pardon, c'est qu'il y a une possibilité d'amour dans le futur.
Bah, c'est surtout, je pense que Dini essaye de laver un petit peu la réputation de son personnage. Enfin, c'est pas forcément son personnage, Zatanna, mais je veux dire, c'est comme il apprécie ce personnage-là, il a pas envie que ça laisse une trace, tu vois, indélébile sur elle, ad vitam aeternam. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est maintenant, faut pardonner, quoi, à ce personnage.
Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que non seulement il y va petit à petit avec le pardon, parce que ça s'est pas fait en un épisode ou juste un tout petit arc, ça a mis un peu de temps, on la voyait de plus en plus dans les pages de Detective Comics, parce qu'on l'a vu dans cette histoire où elle se fait tirer dessus, on la revoit dans l'histoire avec le Scarface, on la revoit encore dans Hush, bon, rapidement, certes, mais on la revoit quand même. Donc c'est bien limite un personnage presque du Batverse, quoi. Bon, elle fait quand même partie de la JLA, donc elle est toujours en contact avec Batman, mais on la voit fréquemment. Et donc il y a déjà ça qui est mis en place depuis longtemps, qu'il essaye petit à petit de lui faire pardonner, et ça va même au-delà, c'est qu'il y a une possibilité de relation, donc le pardon est plus que fait, puisqu'il envisage une relation avec elle. Donc non, je sais pas, je trouve que c'est bien amené, quoi.
Oui, mais c'est d'autant plus dommage que je pense à nouveau qu'une fois que Dini sera parti, tu verras plus Zatanna dans les titres Batman.
Ah, je sais pas. Je sais pas, peut-être.
Peut-être que tu sais. Mais
Non,
tu dis
non,
que tu ne
non,
sais
non,
pas.
vraiment, vraiment, je ne sais pas.
Ouais.
Sinon, j'aurais fait un peut-être, mais là, je
Ouais.
sais pas. Mais enfin, je sais pas, c'est pas mal. Enfin, ça laisse des choses, quoi. Moi, ce que je peux conseiller à Bruce, c'est de se convertir et devenir mormon, puis comme ça, il pourra faire la polygamie et ça sera autorisé, quoi.
Oh, moi j'ai dit de sortir à Zatanna, puis toi, hein. De toute façon, il gagnera tout le temps toutes les disputes avec cette excuse. Tu m'as effacé la mémoire.
On sent le mécrotor.
Non, retournant, logique. Au moins, il aura le dernier mot, quoi qu'il arrive. T'es rentré tard ce soir. Ouais, mais bon, tu sais, tu m'as quand même effacé la mémoire.
Ah non, 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 il pourra carrément lui dire, t'es rentré tard ce soir. Ah ben, je sais plus, j'ai oublié.
Conseillerais de se mettre en couple avec Célina et de faire de Zatanna sa maîtresse, puisque pour couvrir ses traces, une magicienne, il n'y a pas mieux quand même.
Oh, de faire défoncer par Catwoman aussi.
Attention,
Ouais, mais
ça
elle
devient
trouvera rien,
tendancieux.
quoi. Elle trouvera rien, puisque ce sera
Moi, je trouve
coincé
que le
dans
mieux,
le...
c'est de continuer comme ça le flirtouillage et qu'il n'y ait pas de vraie relation. Je trouve ça vachement
Oui,
plus intéressant.
puis, vous remarquerez que autant dans Batman, il a une relation en tant que Bruce Wayne, autant dans Detective Comics, c'est en tant que Batman qu'il est en relation avec ces deux femmes-là. Il y a
Ah
quand
ouais, c'est
même,
vrai.
tu vois, il y a quand même une différence.
C'est vrai.
De très marqué. C'est-à-dire que là, c'est des relations qu'il a plutôt quand il est Batman.
Mais d'ailleurs, on sent que Dini n'aime pas hein, Jezabel Jett, puisqu'il ne la fait pas apparaître une seule fois. On la
En même
mentionne,
temps,
mais il ne la fait pas apparaître une seule
qui
fois.
aime Jezebel Jett?
Ouais.
Voilà quoi.
Pas
Bon.
moi, déjà.
Bon, elle a pas le même costume que les deux autres non plus, hein, donc
Ouais.
elle perd un peu en charme.
Ouais, mais
Bah,
bon.
c'est pas une héroïne de toute façon. Elle, c'est clairement voilà, elle fait partie clairement de l'univers de Bruce Wayne.
Mais quand bah, il fait pas mal de fois passer, enfin pas mal de fois non, il le fait passer un petit peu Bruce Wayne, mais comme par hasard le moment où il va à un défilé, la Gotham Fashion Week, elle n'est pas là.
Ouais.
Elle est à Paris.
Ouais. Ouais, comme par hasard, ouais.
Voilà, c'est ça. On sent que le mec n'apprécie pas vraiment le personnage parce qu'il veut pas la faire apparaître. Ça, moi franchement, c'est ce qui en ressort, je trouve, dans son écriture. Hein.
Il n'a pas envie que ça devienne la promise de. Ça doit être énervant, tu vois, ça fait des années que le mec essaye d'imposer à Bruce Wayne, enfin à Batman, Zatanna ou Catwoman, etc. Et là, comme par hasard, au moment où il revient écrire sur Batman, où il peut enfin le mettre avec Zatanna ou le mettre avec Catwoman, il y a un autre scénariste à côté qui impose à Bruce Wayne une nana, donc ça
Ah
doit
puis
lui être
alors vu que c'est
insupportable.
Grant Morrison, on va lui laisser le champ libre, hein, forcément.
Voilà,
Hein.
en plus, donc voilà, donc pour lui, ça doit être assez terrible.
Même si Paul Dini a un nom bien connu, c'est vite fait, quoi. On a le choix, enfin, en tant qu'éditeur en chef.
Ça vend moins de toute façon.
Voilà, c'est ça. Parce que Paul Dini, donc Animated, alors même s'il connaît bien le personnage, c'est un peu trop gamin, peut-être. En tout cas,
Et
dans l'esprit général des gens.
c'est ce que j'ai pensé même au
Bah,
début,
moi
hein,
aussi, hein, c'est ce que
quand
je
il est
disais.
arrivé.
Hein.
Voilà, oui.
Ce qu'on disait au début. Donc voilà, forcément, on va laisser le champ libre à Morrison. Bah, je sais pas ce que t'en penses, toi, Mig, si tu penses que ça peut jouer peut-être ou pas.
Toute façon, voilà, c'est comme vous disiez, Bruce Wayne et Batman. C'est ça les deux trucs, quoi, c'est deux faces. Le problème, c'est qu'il doit aussi se couvrir dans la vie mondaine et tout ça en étant riche. Donc un couple, si tu veux, à la ville comme ça permet aussi de se couvrir un peu plus en Batman. Mais rien n'empêche que de l'autre côté, il flirte un peu avec Zatanna et Selina. Donc, d'un côté, si tu veux, il la trompe pas, mais il se laisse plein de portes ouvertes dans tous les sens. D'un
Ouais.
côté, là, il dit que son seul amour, c'est Selina, mais il est avec l'autre. Donc je trouve que c'est vachement plus intéressant ce genre de triangle amoureux, même de carré amoureux, que simplement du genre il est en couple et c'est tout. Voilà, on le case, il va se marier, tout va bien. Non, je trouve qu'il a plus de consistance comme ça, du genre, ben, c'est un perso torturé, il continue à être torturé même dans sa vie privée, il sait pas quoi choisir.
Malgré tout, une relation avec Selina, ce serait avantageux, puisqu'elle pourrait très bien sortir dans le grand monde avec lui, sous Bruce Wayne, et l'accompagner dans ses aventures en tant que Catwoman.
Oui, mais ça serait pas drôle non plus de le voir marié.
Ouais, remarque,
C'est
si c'est
mieux de
pour
le
nous
voir
faire un...
torturé avec son côté sombre. Imagine-toi qu'il soit heureux, Batman.
Ouais.
Et qu'il chantonne quand il va tabasser les méchants dans les rues de Gotham.
Ouais,
Bon,
ça
bah
pourrait être
ça.
sympa.
Non, mais tu vois, ça perdrait un peu du charme. Il faut qu'il soit torturé.
Il y aurait tout un tas d'aventures à faire, quoi. Genre, je défonce vite les ennemis pour vite rentrer, me mettre au lit avec ma femme, ce genre de trucs. Et je pense qu'on sortirait, parce que bon, parallèle de héros mariés, on pense forcément à Spider-Man. Bon, déjà, c'est vrai que si c'est pour nous faire un One More Day dans quelques années, ça vaut pas le coup. Mais en tout cas, ça sortirait un peu du rôle de potiche, puisque elle a elle a quand même une justification de super-héroïne, quoi.
Moi, je continue à penser qu'il faut pas qu'il se case. Faut qu'à chaque fois qu'il se fasse larguer ou qu'il arrive. Je le trouve mieux torturé, Batman, quelqu'un de très sombre et tout ça. Et son seul amour, de toute façon, c'est sa quête de justice.
C'est vrai que c'est bien en même temps, c'est classique cette relation de on est ensemble, on n'est pas vraiment, on s'aime,
oui,
on s'aime
pas. Oui, puis Batman, c'est un peu le James Bond des comics, de toute façon. Donc, ouais. James Bond ne se mariera jamais. Enfin, il s'est marié, ça a mal fini, dans un James Bond, dans un très vieux James Bond.
Alors là, tu m'en demandes trop.
Ah, c'était le James Bond avec George Lazenby, qui en a fait qu'un d'ailleurs. Oui, le sixième.
Qui est la limite d'être d'ailleurs considéré comme pas James vraiment Bond. Un James Bond.
Ouais, mais ouais. Bon, enfin voilà. Bon, bref.
Ok. Bon, bah je crois que là on a plus que découpé en profondeur le tome. C'est vrai que c'est un peu cher, 29€. Enfin, en tout cas à sortir d'un coup. Mais c'est vraiment une bonne lecture qui vaut vraiment le coup. Vous en aurez pour votre argent. Donc,
ouais.
Si vous ne l'avez pas, franchement, allez-y.
Oui, c'est vrai que ça vaut le coup.
Voilà, on va passer maintenant, on va complètement changer d'éditeur, on va passer chez Dynamite et on va attaquer Jungle Girl. Donc une nouvelle série de chez Milady Graphics, donc numéro 0 à 5. Alors, scénario de Doug Murray sur une idée de Frank Cho.
Attends, il y a un scénario. J'avais pas remarqué, excuse-moi. Attends, je vais peut-être le relire pour me...
Dessin et ancrage de Adriano Battista, qui n'a rien à voir avec Dave Battista, enfin je crois.
Oui, d'accord.
Les fans comprendront.
Oui, les fans comprendront.
Si, et les couleurs de Frank Martin, je trouve que ça mérite d'être signalé, parce que j'ai trouvé que les couleurs étaient dans l'ensemble plutôt agréables.
Qui n'a rien à voir avec Martin.
Oui, non plus.
Voilà.
Bon, on va être simple, hein. C'est pas super.
C'est tellement dispensable. Voilà,
c'est
enfin, la... clair.
C'est de la merde.
Non.
Je vais pas te dire jusqu'à que c'est de la merde.
Non, moi non
c'est
plus, j'irai.
Alors, voilà. Moi si. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au fait, il y a deux choses. Il y a les comics et il y a les sketchbooks. Alors, faire un sketchbook, tu vois, avec des dessins comme ça, d'accord, pourquoi pas. Mais faire un comics, je suis désolé, un comics, c'est des dessins et une histoire. Et là, l'histoire, il n'y en a pas. Donc pour moi c'est mauvais quoi, tu vois, c'est
si,
pas un comics.
Il y a une histoire. Digne d'un téléfilm de série B qui passe en deuxième partie de soirée sur RTL9, mais il y a une histoire.
Non, attends. Bon, enfin là c'est dramatique. Même à 10 ans, tu t'imagines de meilleures histoires dans ta tête.
Mig, vas-y.
Non, mais le truc c'est que moi je dirais pas que c'est super mauvais ou un gamin de 10 ans l'aurait écrit ou imaginerait mieux ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste un truc où tu poses ton cerveau à côté de toi, tu lis, tu passes un bon moment et c'est tout. C'est pour ça que je dis que c'est totalement dispensable. Mais si vous voulez l'acheter vraiment, bah vous passerez un moment sympa, hein, on va voir du cul. Ça va que le cul de Jungle Girl, hein.
Tout le temps.
Et elle change de bikini chaque 5-6 pages, on va dire.
Oui, enfin c'est. Alors bon, si on le prend vraiment, peut-être qu'ils ont voulu faire ça, peut-être qu'ils ont voulu faire vraiment un truc entièrement parodique. Mais bon, je sais pas. Tu vois, il y a des moments où je me disais.
Même au second degré, hein, c'est quand même pas très bon. Hein. Mais voilà, comme dit, moi je trouve que ça se laisse lire, quoi.
Ça se laisse lire. Tu poses ton cerveau à côté de toi, hein. Quand t'es fatigué, ça passe très très bien. Et puis bon,
ça, c'est vrai.
C'est pas mauvais, parce qu'un truc mauvais, ça serait que j'aurais passé un mauvais moment. Là non, j'ai passé un moment agréable. Mais c'est vrai que je pense que je vais aller l'échanger au magasin. Hein.
Voilà. Mais bon, ouais.
Parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent plus que ça. Hein.
Ouais, mais
c'est
donc,
pas, je trouve pas ça mauvais, super mauvais, etc.
Ouais, mais pour quelqu'un qui pourra pas l'échanger au magasin, franchement, là, je pense que vous passerez un mauvais moment.
En
parce
en
que
même
vous,
temps, ça coûte
vous
pas
direz,
très très cher.
Vous direz, mais pourquoi j'ai dépensé autant pour ça?
Ça coûte
même,
pas si cher que ça.
Ouais, mais même, tu t'achètes un 100% Marvel à la place. Par exemple, Daredevil, dont on va parler. Ça vaut largement plus son prix que ça.
Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est pas comparable. Je veux dire, déjà, on est chez Dynamite.
On est chez Milady, le fameux Milady Graphics.
Ouais, enfin, Milady Graphics ne sort pas que de la bouse, quoi. Enfin,
non, justement, on pourra peut-être en toucher deux mots après, mais là, bon, alors, il y a quand même des passages qui m'ont fait marrer. Déjà, il y a le passage avec la nana là qui se rebelle. Mais alors là, dès que j'y pense, ça me fait marrer parce que la nana se rebelle. Vous voyez de quelle nana je parle?
Oui.
Et déjà, elle essaye de faire du plat à l'homme préhistorique là, qui la repousse comme une merde. Ensuite, elle se fight avec Jungle Girl.
Non, elle lui met quand même une grande tarte dans la tête, puis lui, il lui rend quand même. Ça,
ouais,
c'est
ouais. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. En plus, faut voir les dialogues, je les ai plus en tête, mais c'était grandiose. Ensuite, elle se fight avec Jungle Girl, elle se fait complètement latter. Et en dernier lieu, elle est face à un T-Rex, elle lui fout quand même un coup de pied dans la jambe. Donc ça, j'ai adoré le coup de pied dans la jambe du T-Rex. Et ensuite, elle se fait bouffer comme une merde. Et d'ailleurs, ils se font tous exploser comme des merdes, les autres personnages.
Sauf
c'est
quoi.
Énorme.
Sauf un.
Sauf un, parce que tu sens que, bon, le mec
parce que c'est le gars du FBI, enfin non, de la DEA, donc...
Oui. Ouais, le gars est sympa, ouais. Le gars est gentil, donc bon. Mais les autres, ils se font tous bouffer comme des merdes. Il y en a un qui se fait attraper par un gros ver.
Bon, en même temps, ils se font tuer comme des merdes parce qu'ils agissent aussi comme des cons. Il y en a une, on lui dit touche à rien, puis elle touche à tout.
Mais oui. Donc c'est pour ça.
Donc
que
le seul qui se débrouille mieux, c'est celui-là qui a une petite formation scout et qui a une formation, on va dire, un peu dans la police, etc.
Ah oh, oui, puis t'as les blagues.
Logique, que ce soit lui qui survive.
T'as les blagues aussi. T'as les répliques d'anthologie du style où est-ce que t'as appris ça ? Oh, j'ai été scout. Enfin, tu vois, bon. bon, bref. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi. Il y a beaucoup d'épisodes qui se terminent sur le même plan, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui lui fonce dessus et on voit son cul.
De toute façon, même sans être une fin d'épisode. Hein.
Bah, non, mais il y en a beaucoup comme ça. Il y en a peut-être 3 sur 5 qui se terminent comme ça, exactement la même image. Et au début, tu vois, t'as un avion qui lui fonce dessus et le livre, s'efface. Le livre se termine sur carrément une navette spatiale ou je sais pas quoi.
Non mais de toute façon c'est du Frank Cho et puis même la fin est ridicule quoi, je veux dire
ouais, tout est ridicule du début à la fin. Non, en fait c'est vraiment un truc comme tu disais, c'est une série Z en comics.
Ouais, c'est pour ça, moi le fait qu'ils se fassent tous désinguer les uns après les autres, quand il y en a eu un ou deux qui sont morts, je me suis dit oh bon d'accord, je sais comment ça va terminer, je le savais déjà d'avance quoi. Non, bon, après voilà, ça c'est clairement un truc qui n'est pas dans mon style de lecture. Pour moi, ça représente exactement ce qu'il faut pas faire en comics, et c'est ce qui a causé pour moi la perte d'Image et aussi de Topco. En tout cas, le désintérêt que j'ai eu pour eux dans les années 2000, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des trucs avec des bimbos et le scénario est moins.
Enfin, même avant les années 2000. Hein.
Voilà.
Même donc, avant.
Pour moi, c'est ça. Maintenant, ça se laisse lire, contrairement à certains autres trucs que j'avais lus qui étaient quand même vachement moins bons. Donc non, on passe un bon moment avec ce truc.
Mais c'est totalement dispensable à l'achat.
Et disons que c'est bien de se le faire prêter, quoi.
Voilà.
Parce que le garder dans sa collection, je sais pas. Bon, il existe quand même une suite, hein.
En plus.
Qui s'appelle oui. Jungle Girl Season 2, donc...
Ouais.
C'est enfin, preuve, bon. Ça, que ça a trouvé son public.
Bah ben alors, franchement, oui. Ouais. Là, c'est...
Bah, chacun ses goûts.
Non mais bon, enfin voilà quoi, si j'ai l'occasion que je mette la main sur la saison 2, je regarderai peut-être le premier épisode, voir ce que ça donne.
Voilà. Enfin bon, voilà. Moi j'aurais plus vu ça en sketchbook, mais bon. Qu'est-ce que je... Oui, juste sur Milady Graphics, effectivement, Mick, tu pourras peut-être en parler un peu plus, c'est le...
Ouais,
enfin,
ce
qu'il y a à lire.
Milady Graphics, mais le truc, c'est que j'ai lu
voilà.
Le dernier des Templiers, et ça vaut largement le coup. Après, il y a aussi eu les... comment ça s'appelait? Les Chroniques de Dritz, là.
Ouais, de
exactement.
De façon,
c'était aussi excellent si vous connaissiez un peu le personnage.
Ils ont prévu.
Donc non, là ils ont quand même. C'est pas un mauvais titre, on va dire. C'est un titre un peu, voilà, sympa, mais sans plus. Lâchez-vous plus sur le Maes Templar ou sur les autres trucs que sur ça, on va dire.
Non mais bon. Moi je trouve que bon, voilà, pour un début d'édition, ils s'en sortent pas mal. Ils sortent de tout. Et je trouve pas que leur choix soit plus mauvais. Alors c'est sûr que c'est certain, c'est moins bon que Maes Templar. Mais voilà, enfin c'est divertissant et non voilà, c'est à prendre même au troisième degré en fait, et encore. Voilà, tu passes un bon moment, c'est principal quoi. Enfin un bon moment, en tout cas, tu te fais pas chier, c'est déjà ça.
Ouais. Bon.
Ok, bon bah on va passer à la suite. C'est le Daredevil, tome 18. Premier épisode de ce Daredevil, c'est le numéro 106. Scénario de Ed Brubaker, dessin et ancrage de Paul Azaceta. J'espère que je l'ai bien prononcé.
Non, mais c'est pas grave.
Bon, bah vas-y.
Oh non.
C'est à force, les gens vont pas croire que tu parles espagnol.
C'est possible en plus. Hein.
Ouais, bon, Azaceta peut-être.
Non plus.
Bon, bah tant pis, je laisse tomber. bon, alors tout de suite, moi je vais préciser que Daredevil, je suis hyper en retard sur la série. Je suis en train de relire toute la série, en tout cas tout le volume 2, et pour le moment j'en suis au 38, je crois. Donc là, ça m'a fait un espèce de gros bond en avant, j'ai raté pas mal de choses. Et justement, ce 106, c'est excellent parce que c'est un très très bon jumping point. Il permet d'avoir une bonne idée de ce qui s'est passé avant et de pouvoir prendre la série, sans avoir forcément tout lu.
Là, c'est tout un renouveau en fait de Daredevil, on va dire. Tout s'effondre autour de lui, avec sa copine qui est devenue folle à cause du gaz du comment il s'appelle, Mister Fear, non?
Ouais, c'est ça.
Mister Fear.
Mister Fear, donc lui effondré complètement de perdre encore une femme de sa vie, on va
Encore.
dire. À force, bah, là, il l'a même pas perdu, quoi. Il l'a perdu encore plus que les autres, on va dire. C'est-à-dire qu'elle est à côté de lui, mais il peut pas la voir.
Ah,
On lui
puis,
refuse sa visite. Il y a
oui,
toute son
carrément,
odeur
ouais.
dans la maison. Donc c'est vraiment une perte quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle est à portée de main sans pouvoir la voir, ni la toucher, ni quoi que ce soit. Donc là, bah, il est à bout. Il devient encore plus violent que d'habitude. Donc non, un bon Daredevil.
Mais c'est marrant que à chaque fois qu'il y a un épisode de réflexion sur le personnage, qu'il est en proie, en tout cas moi dans ce que j'ai lu, qu'il est en proie à devenir dingue, on a le point de vue de Ben Urich.
Bon, ça reste quand même le, on va dire,
L'ami, ouais, c'est sûr.
un des plus proches amis avec,
Avec
avec
Foggy, ouais.
Foggy, mais bon, Ben Urich, je crois qu'il le savait bien avant Foggy, si je me trompe pas. Donc ça reste quand même une relation un peu plus, bah, je sais pas, hein. Mais Ben Urich a sa place là-dedans complètement.
Non, mais c'est marrant parce que moi, dans ce que j'avais lu justement, dans ce que je suis en train de relire du coup, c'était au moment où il y a eu, c'était juste l'arrivée de Bendis en fait sur le titre, et juste avant, il y avait eu un épisode où Daredevil touchait le fond, et c'était Ben Urich un peu en termes de narrateur quoi, si on peut à peu près quoi. Donc c'est assez sympa je trouve ce parallèle. En tout cas pour moi, ça change pas grand-chose, même si c'est
On voit quand
60
même que
épisodes
c'est
plus
un
tard.
super bon ami, parce que là il pourrait faire une série d'articles monstrueux sur lui, et il le fait pas.
C'est un peu son confident en tant que Daredevil. Et Foggy, c'est un petit peu le confident en tant que Matt Murdock. Voilà.
Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il se rende compte que finalement, il est en train de devenir un peu comme Jameson. Ça m'a fait
Oui.
rire.
Mais bon, d'un côté, lui, il a des bonnes raisons de le faire, même s'ils
Voilà.
font pareil, c'est des raisons différentes.
Voilà, que le maître se mette à crier, renvoie les journalistes de son bureau, comme Lee se faisait renvoyer du bureau de Jameson, quoi.
Ouais.
C'est assez drôle.
Mais
Pourtant,
bon,
ça
le
prend
côté là où
pas.
on voit plus péter les plombs avec Daredevil, un moment super drôle, c'est quand il colle un coup de poing à Luke Cage quand même, quoi, à Luke Cage.
Ouais, et je crois que c'est
Oui.
après ça, c'est dans
Oui,
l'arc suivant.
c'est
Oui.
dans le 107, ouais.
Mais c'est voilà, il pète complètement les plombs, c'est-à-dire qu'il pense même pas qu'il est blindé et tout. Donc il touche vraiment le fond, c'est-à-dire qu'il est vraiment
Ouais.
énervé à fond. Et ouais, il est à bout, le pauvre, à force.
Ouais, c'est comme quelqu'un qui shoote dans un machin, puis au fait il y a un caillou dedans, et voilà quoi. Donc
Non,
c'est
lui il
vrai
a fait pire, c'est comme mettre son pied dans une broyeuse, on va dire.
que
C'est qu'il
c'est
sait qu'il va se faire broyer, mais il le fait quand même, tellement il est
Ouais.
énervé.
Donc, en tout cas, un bon épisode de point de départ, c'est vrai que bah, pour prendre la série en marche, c'est un bon point de départ, quoi. Et ça permet de juger un petit peu de ce que donne Daredevil, et de se faire un avis si aller chercher les 17 tomes d'avant valent le coup ou pas, quoi.
Bah, en tout cas, sur le run de Brubaker, disons que c'est à cet endroit-là que voilà, il fait un petit peu le point sur ce qu'il a fait auparavant. On vient de passer l'épisode 100, enfin depuis quelques numéros, donc c'est le moment de reprendre un peu son souffle. Et c'est vrai qu'on le verra avec l'arc ensuite. C'est un arc bien plus, on va dire, centré sur l'enquête que sur l'action, comme dans les arcs précédents, où vraiment, bon, il se passait énormément de choses. Il lui arrivait énormément de choses, sa vie était bouleversée, etc. Là, c'est pas vraiment sa vie qui est bouleversée, c'est la vie de personnages autour de lui.
C'est marrant comme c'est un personnage qu'on aime à faire chuter à chaque fois et à essayer de détruire encore et toujours quoi. Tous les scénaristes qui passent sur lui veulent le détruire.
En même temps, il tente un peu le diable avec son costume, on va dire, hein.
Oh, le jeu de mots.
Non, c'est vrai, bah, la descente aux enfers, il l'a tout le temps, puis je trouve que ça colle extrêmement bien au personnage.
Oui, non, mais enfin, c'est marrant que je sais pas, les scénaristes ont du mal à le rendre heureux quoi. Quand c'est un gros scénariste qui arrive sur le personnage, à chaque fois, il s'amuse à le détruire.
Bah, c'est comme ça qu'on l'aime, c'est vraiment le personnage qu'on aime voir au fond du trou, pour mieux ensuite se relever, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'histoires qui commencent par une chute et qui se terminent sur Daredevil sur les toits avec un grand sourire en train de sauter, quoi. On voit même l'image, on l'a en tête, quoi, tellement c'est un truc qui est permanent en fait chez tous les scénaristes.
On va passer au numéro spécial, donc c'était un one shot qui s'appelait Blood of Tarantula. Scénario de Ed Brubaker et Andy Parks, dessin de Chris Samnee. Dessin et ancrage. C'est l'introduction de Black Tarantula en fait en tant que tel.
Enfin, c'est Black Tarantula existait déjà, mais là, au fait, il est complètement changé, quoi, au fait. Normalement, c'est un mec, tu vois, bon, super balèze, là, il est toujours quasi indestructible, quasi immortel, mais normalement, il révèle son identité à personne, il se montre jamais à visage découvert, et c'est vraiment un gros enfoiré, style le Kaïd, et là, c'est un mec, limite sympa, qui est super pote avec Daredevil, enfin tu vois.
Quoi, sympa, sympa, il tabasse quand même pas mal de monde à coups de balançoire, à coups de trucs et tout, donc
Non mais sympa dans le sens où tu vois sa famille est en danger, etc. Bon, et puis même il a pignon sur rue, quoi, tu vois, au début il se balade et il fait ami-ami avec les flics, mais normalement.
bah, il leur verse
Non.
des pots de vin surtout.
Pour
Oui, non
toi,
mais
il
non.
Il
Tranquille.
fait des dons un peu à tout le monde dans la communauté, surtout, on va dire.
Voilà, et ben normalement ça non, tu vois, ça c'est pas du tout lui, c'est pas du tout ce personnage-là qu'on a connu. En fait, il avait été introduit par DeFalco sur Amazing Spider-Man, et donc là Brubaker le ressort, mais bon, il est quand même un peu différent, quoi.
Bah, apparemment, si j'ai bien compris ce qui était dit, il avait rencontré Matt Murdock en prison.
Ça a été fait, au fait, effectivement, il a été introduit comme ça dans Daredevil par Brubaker, mais voilà, enfin bon, le personnage est un peu différent quand même de ce qu'il était normalement à la base.
À savoir si c'est bien le même, hein.
C'est le même parce qu'il a le même nom normalement, mais enfin voilà, c'est a priori il a le même nom, hein. J'ai pas vraiment vérifié, mais il me semble que c'est la même identité, que c'est la même histoire, parce qu'il avait déjà une famille, mais sa
Tout
manière
le
de
monde a
faire
une
les choses a
famille,
complètement changé.
hein.
Non mais ouais, enfin tu vois ce que je veux dire. Il tient sa femme à sa fille, etc. Il a des enfants, enfin je sais plus quoi, mais bon, bref, voilà, il a changé de comportement, clairement. C'est pas la même façon d'agir.
Ouais, le one shot en tout cas, bon, ouais, il est comparé au reste, disons que c'est un peu moins bon, c'est certain. Maintenant, il met en place aussi là quelques futures intrigues, donc c'est toujours pareil, quoi. C'est vraiment un one shot d'introduction, quoi.
Ah bah je sais pas si on verra le Black Tarantula, si, sans doute, ouais.
Normalement, oui.
Ah d'accord, ok.
À moins que je confonde, mais je crois.
Ah là je peux pas vous aider.
Bah de toute façon c'est voilà, c'est comme on disait tout à l'heure sur les Batman, c'est un épisode fill-in. Donc tu peux pas t'attendre à un truc exceptionnel.
Je pense pas que ce soit un fill-in. Moi, je suis quasiment certain que ce soit pour introduire quelque chose d'autre, parce que si c'était un fill-in, ça aurait été dans la série régulière. On va pas faire un fill-in pour faire un one-shot, quoi.
Ah au fait à la base ça devait être un annual. Mais alors je sais plus s'ils l'ont sorti. Oui, s'ils l'ont sorti en one shot finalement. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait en annual.
Je peux pas te dire.
Non, mais c'est un mystère, voilà.
Je
Mystère
verrai.
restera entier.
On passe maintenant au gros arc du numéro, c'est le 107 à 110. L'arc s'appelle Cruel Unusual. Bah, c'est la remontée, on va dire, en quelque sorte.
Bon, on lui redonne une raison d'exister en fait au petit Mati, on va dire.
Il se retrouve donc avec un Luke Cage qui vient lui demander de l'aide, mais il se prend un coup de poing.
Ouais, il a tellement mal en plus. Il est plié, mais de rire, je crois.
Je crois qu'il est plutôt
Bah,
affligé par ce qu'a tenté de faire son ami.
oui,
Bah, c'est
voilà.
ça ce qu'on disait avant, c'est comme mettre son pied dans un broyeur. Faut être con. Mais ça prouve bien qu'il est vraiment
Il est paumé.
complètement dépressif, le pauvre pied, un peu trop dans son monde, à mon avis.
Bon, bah, l'histoire est en tout cas commence simplement un gars qui est dans le couloir de la mort et que Luke Cage demande à ce qu'il vienne l'aider pour faire un appel parce qu'il pense qu'il est innocent. Et vu que bah, ça ne passe pas par Matt, il demande aux gens de son équipe, et notamment à Dakota, d'aller le voir en prison. Elle y va, et lui, non seulement ne veut pas reconnaître qu'il est innocent, continue d'avouer sa culpabilité, mais elle se fait gentiment agresser.
Par un fédéral, je crois, en plus,
Oui,
non?
par un
Ou un gars de la
fédéral. Oui,
CIA?
c'est un agent du FBI.
Ou non, en tout
Donc.
cas, là, c'est un très bon style polar.
Oui, voilà, c'est vraiment ça.
Bah, du bon Waker, quoi, comme il a. J'ai oublié de préciser d'ailleurs qui sont les artistes derrière. Donc on a Brubaker et Ruka au scénario. Et on a Michael Lark et Stefano Guidano au dessin et à l'ancrage. Donc on a quand même deux maîtres du polar qui travaillent ensemble.
Et là, je trouve que c'est bien tenu. Pendant tout le long, tu te demandes un peu ce qui va se passer, quels sont les aboutissants, quelles sont les connexions et tout ça. Et je trouve que c'est assez bien foutu.
Ouais, puis c'est une très bonne histoire de conspiration qui est vraiment bien menée jusqu'au bout.
Et elle est un peu à part. On sent que Ruka est venu s'ajouter à la bande. Parce que les arcs précédents, c'était bon, voilà, il y avait bien plus d'action, c'était bien plus centré autour de Daredevil. Là, c'est carrément plus centré sur, bon, il y a aussi toute une part sur lui, mais il y a aussi toute une partie sur la nana,
Dakota, ouais.
Dakota, qu'on apprend à connaître bien plus là-dedans qu'auparavant. Avant, enfin voilà quoi, je voyais sa tête, mais je savais pas vraiment qui elle était, d'où elle venait, etc. Et donc là, on apprend énormément de choses sur elle. Il y a tout un, oui, tout un, c'est un thriller, quoi. C'est un espèce de petit thriller, et ça change un peu de ce qu'on a pu voir avant.
Je sais pas, moi j'ai bien aimé l'arc en général. C'est vrai que pour moi qui n'ai pas lu toute la série, c'est assez pratique parce que ce tome est quand même assez à part. Donc
Voilà, ouais, totalement.
ça
Ça
permet
suit
aussi de
pas.
reprendre son souffle peut-être après tout ce qui est arrivé ces derniers temps. Donc il lui fallait peut-être aussi un petit arc pour calmer le jeu, quoi. Ou en tout cas être moins tendu, disons. Y a quand même un truc qui m'a fait un peu rire. Alors, je sais pas si vous avez vu la série Oz. Mais le personnage de Big Ben m'a vraiment fait penser à Karim Saïd.
Ouais,
Quand
bon,
il.
moins en plus baraque quand même,
En plus baraque, oui, mais quand il arrive, je me suis dit tout de suite, c'est
hein.
la première image qui m'a sauté aux yeux, je me suis dit, bah ça y est, on est dans Oz, quoi.
Peut-être qu'ils ont fait exprès, hein. Sans doute même.
Non, c'est surtout le bonnet qui fait beaucoup, puis
Oui,
voilà.
les colliers, le fait que ce soit un black, qu'il ait quand même
Oui, mais c'est
la
pour ça,
barbe,
c'est un
enfin
peu.
voilà, tout ça, quoi.
Non, vachement plus baraque. L'autre, il est quand même un peu maigrichon, on va dire.
Ouais, c'est clair. Non mais bon, voilà, j'ai trouvé le clin d'œil sympa, quoi. Quoi d'autre à ajouter sur cet arc?
Bah achetez-le à la place de Jungle
Ah
Girl.
ouais, bah, c'est ce que je disais tout
bah
à l'heure quand même, hein.
c'est
C'est
sûr que s'il y a un choix
vraiment.
à faire, oui.
C'est pratiquement le même prix. C'est 1 € de plus. Et 1,30 € je crois, ou 1,50 € je ne
Oui,
sais plus,
enfin,
mais.
on n'est plus à
Ouais.
50 centimes près, je crois.
Voilà. Oui. Sans maintenant on fait même plus attention, mais voilà, oui, c'est clair que c'est la lecture. Enfin, c'est le. Dans ce volume-là, c'est le plus intéressant.
Bah, c'est sûr que si, ouais, si, voilà, si vous avez un choix à faire parce que vous avez un budget trop serré, allez pas à Jungle Girl, quoi. Allez
Sauf si
à
vous aimez le
Baby.
genre de Jungle Girl,
Oui, bien sûr,
c'est
après,
bien les
si
trucs
vous.
un peu faciles à lire ou
Ouais,
complètes détente, etc. Ouais, non, mais
Aventure Z,
enfin,
voilà, quoi.
vous laissez pas non plus tromper par la couverture, quoi. Moi, j'étais tenté de chroniquer Jungle Girl parce que j'avais vu la couverture et que ça me semblait sympa.
C'est de ta faute en
Oui,
plus si on l'a fait.
autant dire que c'était l'idée de Bunny. Hein. Ouais.
C'est vrai en plus.
C'est vrai en plus.
À vous tes crimes.
Ouais.
Non mais c'est pas grave. Hein. Bizarrement, c'était ton idée, c'est nous qui avons apprécié, et pas toi.
Non, voilà. Pris à son propre piège, le lapin.
Ok, bon bah je crois qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire sur Daredevil. Très très bon arc, on verra.
Bah, je pense que c'est un arc surtout qui effectivement permet de rentrer dans la série pour ceux qui commenceraient par ce volume-là, c'est pas problématique. Puisque les autres faisaient toujours suite directement aux précédents arcs, là il y a vraiment une coupure. Donc on peut commencer par là comme premier volume, c'est bien, et ça permet de marquer une pause parce que la suite promet d'être aussi mouvementée que ce qui a précédé. Voilà.
Oui, au moins aussi mouvementé, oui.
Au moins aussi mouvementée, d'après ce que j'ai vu.
Ouais, moi
Voilà,
aussi.
il y a du lourd.
Voilà. Bien, on va passer maintenant à notre dernière dernière chronique librairie ce mois-ci, et c'est The Boys, tome 4. Nouvel arc intitulé Good for the Soul, épisode donc 15 à 18, scénario toujours Garth Ennis, dessin et ancrage de Derek Robertson. Un arc assez différent de ce qu'on a pu avoir par le passé dans les trois premiers arcs. Plus calme déjà quand même, puisque beaucoup plus intimiste, vachement plus centré sur Ugi, pas de conspiration,
Ou presque pas, on va dire.
ouais ou presque pas, enfin disons comparé au reste, il n'y en a pas quoi. C'est ça que j'ai trouvé. Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment bien aimé cet arc en fait.
Bon, moi je le trouve un peu plus, comme tu dis, un peu en baisse de rythme par rapport aux autres. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de sang et tout, mais j'ai pas une... Ouais, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Il y a toujours cette dose d'humour incroyable, je trouve.
Ouais, mais c'est ce qui fait le succès de la série, hein, de toute façon.
Oui, bah sans ça, la série aurait peut-être moins d'intérêt, on va dire.
Benny, t'en as pensé quoi, toi?
Comme d'habitude, moi j'ai bien aimé. De toute façon, en général, Garth Ennis sur ce type de série, c'est vraiment bon. Et je pense d'ailleurs que c'est, sans prendre de risque, on pourrait pratiquement dire que c'est la meilleure série chez Dynamite. Enfin, Je sais pas ce que vous en pensez. Hein.
Je connais pas assez les autres pour pouvoir juger de ce qu'on lit, nous en tout cas, moi oui, c'est ce que je préfère.
Parce que bon, il y a y a Project Superpowers et puis il y a Jungle Girl. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais bon, voilà.
Non, moi je sais pas, dans l'ensemble, la série est bien, même si bon, le dernier arc m'avait un petit peu moins plu. Peut-être un petit côté too much avec cette histoire en Russie. Là, vraiment, j'ai vraiment bien aimé cet arc. Le premier épisode était un peu long à partir, j'ai trouvé, et puis après, ça file tout seul, quoi.
Bah, il s'attaque de nouveau, si tu veux, à certains clichés des super-héros, du genre là, la résurrection des super-héros. Là, il a une explication quand même assez voilà. Incroyable.
Ouais.
Ou d'ailleurs, Guy, là, doit retuer le mort.
Ouais.
Je trouve ça excellent, quoi, tout. Et qu'ils reviennent pas avec leur capacité mentale intacte. Voilà, c'est des grands moments, je trouve. C'est...
Sans parler du fait qu'ils reviennent juste pour faire une apparition pour les relations publiques, et puis voilà, quoi, c'est tout.
Ouais, bon, quand tu vois l'état dans lequel il revient, où il veut juste le hamster, là...
Non, mais voilà, c'est ça. Puis bon, c'est toute cette histoire d'amour entre Yugi et puis j'ai oublié son nom, la fille.
Oui, enfin, la fille du groupe...
On voit qu'elle elle se rebelle quand même un peu à la fin.
Ouais.
Ouais.
Moi, je sais pas, c'est peut-être ce petit côté fleur bleue qui m'a plu, moi.
On sent aussi que dans le futur, cette relation, elle va un peu partir en vrille.
Je sais pas, hein, faut voir. Le truc
qui est amoureux, elle aussi, mais que l'équipe doit aller tabasser du super-héros. Je sais pas, je le vois un peu comme ça. Hein.
Ouais, mais elle commence
je trouve ça très drôle.
Elle commence à détester son équipe, et puis c'est son côté peut-être aussi chrétien, tout ça, qui fait qu'elle est vraiment différente des autres, quoi.
Oui, on va le dire, elle est très couillonne.
Ouais. Naïve, j'aurais dit, moi, mais bon.
Oui, les deux, couillonne, naïve, fleur bleue, mièvre.
Bah, j'ai envie
c'est
de
quoi,
dire.
C'est un ancien petit copain.
Elle est idéaliste, quoi.
J'ai envie de dire, elle gobe tout.
Ouais, alors là. Oh, le jeu de mots.
Voilà, bon, c'est fait. Moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est toujours les scènes qui se passent dans le comic shop. Avec le vendeur ouf et l'informateur au sous-sol. Je trouve ça excellent comme idée.
Moi, je dirais pas que le vendeur est ouf.
Non, mais ouf après ses clients. Oui,
non,
voilà.
Mais ouf avec ses clients, non. Alors, j'ai travaillé quelques années quand même dans une librairie de bande dessinée. Et je me rappelle que j'ai eu plein de fois cette réaction avec des ados ou des gamins qui passaient du genre une heure au fond du magasin en train de lire.
Ouais. Bah oui, c'est énervant. Non, mais ce que je te dis, c'est qu'il a une réaction de ouf, mais c'est pas péjoratif, quoi. Il a raison de réagir comme ça. Et je veux dire, quand tu te mets à la place des clients, tu fous le camp, quoi, direct. Le mec, il devient ouf.
Un peu moins aimé les dialogues, justement, des branleurs, là, qui sont dans le truc. Avec oui, telle série est meilleure qu'une autre, etc. Parce que j'ai trouvé ça un peu cliché, surtout qu'en plus les séries qui sont citées pour certaines sont des détournements de noms de séries de Garth Ennis lui-même, donc voilà quoi. J'ai trouvé ça, disons, autant des fois ça me fait rire, autant là ça m'a pas fait rire.
Bah tant mieux, hein. C'est mieux qu'il fasse un détournement de ses propres séries, tu vois, qu'il ironise sur ce qu'il fait lui, que plutôt qu'il aille faire des parodies de séries des autres.
Ah bah il y a des séries des autres, mais je sais plus comment c'est, il parle de la série Révérend je sais plus quoi, qui est ni plus ni moins que Preacher, quoi.
Oui, bien sûr.
Je sais pas, là, c'est peut-être moi qui n'étais pas de bonne humeur quand j'ai lu cette phrase-là. C'est bizarre que je change d'humeur
en même
aussi
temps,
vite quand même.
Page,
mais oui, voilà, non, c'est ça. Plus aussi le coup quand il y a Butcher qui est avec la chef là, qui lui parle par rapport au bombardement sur l'Afghanistan, etc. Bah, pour moi, je trouve ça un peu cliché, quoi. En fait, c'est pour ça aussi peut-être que j'ai un peu moins aimé ce premier épisode de l'arc, c'est que je sais pas, ça m'a un petit peu énervé. J'ai eu peur de l'arc et en fait après j'étais très agréablement surpris parce que le reste de l'arc, il n'y a plus du tout ce genre de choses là et j'ai trouvé ça beaucoup mieux, quoi. Alors je sais pas, ces deux trucs là m'ont vraiment, honnêtement, ça m'a fait chier carrément dans le premier épisode.
Bon, moi ça m'a pas dérangé parce que ça, au contraire, ça m'a fait rire cette relation avec cette femme là, je m'en souviens.
Ah oui, oui, la relation, oui, non, c'est juste la phrase sur le fait des bombardements, machin. Pour moi, c'est un peu trop cliché de dire ça, quoi.
Voilà. Oh, il aurait pu faire pire, hein.
Ah oui, alors bon, je vais pas les défendre l'armée non plus, j'ai pas de position particulière là-dessus.
Non, mais j'aurais pu faire pire dans le cliché encore plus, si tu veux.
Bon, bah, y a tellement de séries comics actuelles en plus qui font des clichés là-dessus que.
Mais ouais, mais c'est pour ça que ça me gave, en fait. Parce que je trouve que c'est à être tombé dans la facilité que de faire encore et toujours ce genre de truc-là, quoi. pour moi, c'est un peu trop, quoi. Parce qu'on en voit trop, justement.
Ça, c'était bizarre. Aujourd'hui, t'avais pas râlé encore trop.
Non, non, mais
Je me
attends.
demandais si t'allais pas bien.
Attends, c'est ce qui m'a gêné sur le premier épisode. Après,
Mais
je te dis,
oui,
moi,
mais...
c'est le côté fleur bleue de
Je
tout le reste de
t'attaque.
l'arc, j'ai adoré, quoi. Parce que je suis assez
Oui,
fleur bleue et que j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça mignon tout plein. Ça paraît con pour dire ça pour The Boys. Mais voilà, j'ai adoré ce petit moment d'amour. J'ai adoré aussi les moments un peu moins glamour, justement, quand Butcher vient le chercher chez lui, quoi.
enfin, c'était vachement moins glamour quand même. Mais c'est ça, je pense, qui fait rire, c'est-à-dire que tu passes d'un côté fleur bleue à un côté un peu ridicule juste après, c'est
C'est
de...
quand même carrément trash, même. Mais c'est là, voilà. Là, tu vois, c'est trash sans être. Pourtant, si, même c'est même à la limite de la vulgarité. Mais voilà,
Ouais, mais bon,
ça reste
sous-entend sans le
acceptable.
dire.
Ça reste acceptable. Peut-être parce que c'est de la série.
Sur certains trucs, tu te retrouves même dans certains moments sur, enfin, tu te retrouves même dans le personnage de petit Yugi, quoi. Tu te dis, tiens, voilà le genre de truc à la con qui aurait pu m'arriver.
Ah, mais complètement. Enfin, moi, je me retrouve complètement dans le personnage de Yugi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai vachement apprécié cet arc, parce que c'est, enfin, de tout, c'est mon personnage préféré. En tout cas, il essaye de le mettre en avant de manière à ce que ce soit le gentil, etc., de la bande. Mais voilà, quoi. Enfin, moi, je me retrouve complètement dans ce personnage-là. Bah, peut-être pas vous. Mick, toi, je te sens plus dans le personnage de Butcher.
Non mais tout de suite.
Et
C'est
moi,
quoi
tu me
ces
sens où,
clichés tout de
alors?
suite? Moi aussi j'ai
Moi,
un
tu me
côté
sens où?
fleur bleue, etc. C'est pas parce que j'aime bien les fous sadiques, etc. que...
Je sais pas, toi,
Oh.
je te classerais peut-être en Mother Milk.
En quoi?
En, comment il l'appelle en français, je sais pas. Je sais pas trop comment. Le black, en fait.
Ouais.
Lequel?
En fait je crois que je me retrouve dans tous les persos, puis dans aucun en même temps. C'est-à-dire
Et
que...
moi, et moi, et
Bah,
moi, et
comme
moi.
je t'ai dit, Mother Milk, pour toi, je pense,
Ah,
Bunny.
moi,
Ah oui,
d'accord.
c'était pour toi, Mother Milk. Pour Mig, c'est clairement Butcher
Mais non, mais clairement. C'est quoi cette
C'est parce
histoire-là?
que moi, je te connais en dehors, c'est pour ça.
Ouais, mais c'est pas vrai, ne le croyez pas, je ne suis ni violent,
Ah
je
non,
suis très romantique. S'il y a des filles qui m'écoutent, ne l'écoutez pas.
pas pour la violence, pour le côté cynique, je dirais.
Ah oui, peut-être. Oui, alors sûrement. Mais oui.
Pour le côté cynique plus. Ah non, pas pour la
Ok.
violence. Ah non, 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 je parle simplement de l'attitude des
J'ai cru au
persos
côté un peu
quand.
pervers et tout ça, même si, voilà, on
Aussi.
l'est tous un peu, mais...
Aussi. Mais surtout toi.
Non, surtout moi. Oh là là, c'est incroyable.
Comment ça règle des comptes? Je me
Ouh là
venge.
là.
Je me venge. Après
Je
un
prends des
autre
notes en même
podcast.
temps. Continuez, hein, prenez des notes.
Bon, voilà, bon. On a. Ouais, enfin, pareil. Là, ouais, justement, Mother Milk dans cet épisode, enfin dans cet arc. Et pas trop utilisé. On voit qu'il y a cette relation avec sa mère où on comprend pas
On comprend
trop.
pas très bien, c'est pas super bien, on va dire, développé. Peut-être qu'on en saura plus avec Kuggy quand il va tout savoir de la légende là.
Ouais.
Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il montre deux trois trucs où on n'en sait pas plus.
Pareil pour cette histoire de conspiration avec le vice-président qui veut faire un discours sur les super-héros, etc. À mon avis, ça c'est un truc qui va revenir dans les prochains épisodes, quoi.
Et puis pareil avec la fille aussi.
La fille. Ah oui,
Oui,
ouais,
avec le français,
oui,
etc.
la fille, c'est vrai que c'est son nom.
Ouais.
Ah oui, c'est la fille.
Pardon, mais c'est qu'en fait en anglais, elle s'appelle The Female. C'est pour ça que j'étais un peu
Oui,
perdu.
là, t'as la fille, t'as le français,
Ouais.
t'as... Je sais plus comment s'appelle le black en français, justement, dans la version française.
Alors ça, je me rappelle plus du tout maintenant.
Parce qu'ils ont tous des noms assez simples, au fait, mais bizarrement, j'arrive jamais à les retenir. Alors attends,
Crème.
je... La
Crème.
crème.
Ah oui, c'est pour
La
ça, quand je
crème.
vous dis Mother's Milk, vous ne comprenez peut-être pas en fait.
Oui, voilà, la crème, ouais, c'est ça. Exactement.
Et le hamster, c'est Jamie.
Oui, bah ça oui.
Ah, je trouve que c'est un perso important, cette histoire, quand même, hein.
Bah dans cette histoire-là, oui, finalement, parce que à mon avis, c'est comme ça qu'il a. Enfin
Qu'il a
qu'il
pu
s'est
faire son
retrouvé.
boulot.
Ouais, qu'il s'est retrouvé face à Huggy, quoi, parce qu'il a dû le sentir, ou je sais pas, sur lui, peut-être.
C'est comme crade.
Oui, surtout quand tu penses où il était, ce pauvre hamster.
Bah, il était dans son trou.
Et moi qui avais laissé un sous-entendu, et après tu dis que t'es pas un pervers.
Hey, j'ai juste fait un sous-entendu, c'est toi qui as mal pensé.
Mais voilà, enfin moi je sais pas, j'ai trouvé Stark vraiment bon. Alors c'est sûr qu'il s'y passe peut-être beaucoup moins de choses que dans les premiers. Pour certains, ça plaira peut-être pas si c'est vrai qu'on cherche de l'ultra-violence, de l'énorme parodie de super-héros, comme on a l'habitude, comme on a eu l'habitude de voir en fait depuis les premiers épisodes.
Enfin là, il y a quand même la grosse parodie, c'est sur le retour des super-héros, quoi.
Ouais, bien
Enfin,
sûr.
la résurrection.
Bien sûr, ouais, c'est vrai, il y a ça.
Donc il y a
Mais
quand même...
c'est pas aussi, disons que c'est pas aussi prononcé que les premiers épisodes.
Non, il pousse moins le bouchon, on va dire. Dans les premiers, c'était vraiment à l'extrême.
Mais je sais pas, je trouve qu'il est bien pour se reposer cet arc. Ça fait du bien de souffler un petit peu aussi avec un truc un peu plus, peut-être un peu plus mou. C'est ce que certains penseront sûrement. Mais ça permet de reprendre son souffle après trois arcs assez denses quand même.
J'étais en train de me demander s'ils allaient pas maintenant faire des arcs, tu sais, sur chacun des personnages. Donc là, on a eu petit Yugi, ce serait bien d'avoir un arc sur chacun des autres, puisqu'on sait très peu de choses sur tous.
Ah, je pense qu'il va délayer les informations au fil des aventures. Moi, je pense
Ouais,
que c'est comme ça qu'il va le
sans
faire.
doute, sans doute.
Bah surtout qu'il a un deal avec Légende, là, je crois qu'il s'appelle, le papy dans la cave.
Oui.
Donc, bon, après, on va savoir comment il va faire exactement, mais à mon avis, on en saura un peu plus. Donc voilà, le côté fleur bleue de Steve, c'était plutôt les feux de l'amour, moi, c'est Butcher. Et Honeybuddy, la crème.
Ouais, la crème, ce qui est très soft, parce que c'est vraiment le plus soft parmi...
Va savoir ce qu'il a fait.
Ah
Moi, à
non,
ta place, je
il...
m'avancerai pas trop.
Oh. Moi, j'aurais dit le français, tu vois, pour moi.
Parce qu'à mon avis, le nom de Mother Milk en anglais, peut-être que ça a un rapport avec sa mère et ça serait pas super super non plus. Hein. Donc moi, à ta
Ouais.
place, je m'avancerai pas trop.
Je sais pas, le français, c'est un personnage qui commence à me gonfler en VO, en tout cas, parce que...
Il est gonflant de base, hein. Tout le
Ouais,
monde le dit.
non, mais c'est surtout qu'en fait, en VO,
Alors justement, ça pourrait être moi.
il y a... Je me serais pas permis quand même. En fait, le problème, c'est que il pourrait faire appel à quelqu'un qui parle réellement français pour leur éviter de faire des fautes aussi grossières, quoi. Parce que
Oui, bah, omelette de fromage.
non, c'est parce que même dans la façon dont les, alors j'ai pas les, là par contre j'ai pas les épisodes sous les yeux, donc je vais pas pouvoir vous sortir des phrases exactes. Mais alors, je pense qu'en français, en version française en tout cas. Il doit pas y avoir de problème puisque ça a dû être écrit correctement. On doit pas voir la différence entre le moment où il dit des mots en français et des moments où il parle normalement en
Non, bon,
anglais.
ils auraient pu le mettre en allemand, hein, et
Ouais.
appeler l'allemand.
Ouais, ou l'appeler l'anglais justement, et puis intervertir. Mais bon. Là, en fait, dans la VO, il parle, il dit beaucoup de phrases en français, en fait, où il commence ses phrases en français, il les termine en anglais. Donc déjà, j'imagine que pour les Américains, ça va pas être facile à comprendre. Mais ce qui m'énerve le plus, ce sont les grosses fautes de français qui sont gênantes, et je pense pas que ça coûterait beaucoup plus cher de faire appel à quelqu'un qui parle un minimum le français juste pour pouvoir écrire ces trois ou quatre bouts de dialogue, quoi. Moi, c'est ça qui me gêne.
Bah, tu sais, c'est comme quand dès qu'ils sont à Paris, que ce soit chez Marvel, DC, etc., dès qu'on voit des Français à Paris, c'est toujours ils s'expriment vraiment, tu vois, en langage SMS quasiment, quoi.
Ouais, c'est gênant. Il y avait une ou deux fois où j'avais rencontré dans des comics du français, mais à la perfection. Et c'était vraiment du français parlé d'aujourd'hui, quoi. Mais je sais plus dans quoi c'est, donc.
Enfin, ça, c'est un problème, remarque, qui est même propre aussi au cinéma, tu vois, quand t'as des Français qui interviennent dans des films américains, c'est ridicule. Ils ont des accents américains pas possibles, ils arrivent même pas à prononcer correctement les mots, tu te dis c'est pas possible, c'est pas des Français.
Ouais, non, voilà, moi c'est pour ça que ce personnage m'énerve en fait. C'est parce qu'il est chiant à lire en fait. Déjà, passer de l'anglais au français comme ça, c'est toujours assez lourd. Et puis surtout un français tel que le sien, quoi, qui est vraiment indigeste et dégueulasse.
Bon, j'attends d'en savoir plus quand même sur lui, parce que c'est pareil, hein, c'est comme la fille, c'est il y a des choses mystérieuses. Qu'est-ce
Bah, la fille elle
qu'elle...
parle pas, déjà elle est mystérieuse.
Non, mais même, qu'est-ce qu'elle faisait aux alentours de cette maison? Qu'est-ce qu'elle regardait exactement? Enfin, tu vois.
Et comment elle peut aimer les After Eight aussi?
Oui, c'est vrai, ouais.
Ouais, je sais
Ça,
pas,
c'est un
moi
mystère.
j'aime bien
Ouais.
ça.
Oui, mais toi, t'es bizarre, on le sait. T'es flair bleu, voilà, quoi. Petite After Eight devant les feux de l'amour, c'est parti.
Merde, je suis découvert. Non, voilà, donc comme d'hab, une série qui se laisse agréablement lire. On
Et qui vaut le
verra,
détour surtout.
ouais, qui vaut le détour, ouais. On verra les prochains épisodes. Enfin, le prochain arc, puisque de toute façon c'est publié en arc. Donc à mon avis, ça va être d'ici 3 mois. Je crois que c'est à peu près tous les 3 mois que ça sort. 3 ou 4 mois, je sais pas trop.
Possible.
Donc en tout cas, j'attends le prochain avec impatience, quoi. Autant le dernier m'avait un petit peu déçu et j'étais un peu moins enclin à lire celui-ci avec beaucoup de plaisir que là, je suis bien reparti pour la série, quoi. Donc, bon.
Oui, idem, le troisième c'est peut-être le plus faible. Parce que c'était une surenchère de. Enfin, pas de violence, parce que ça reste quand même drôle, mais bon voilà, quoi. S'il n'y avait pas une histoire super passionnante derrière.
Ben
Et
voilà, c'est exactement le problème que j'ai eu.
peut-être moins de références aussi au cliché des super-héros, etc. C'était vraiment une aventure comme ça, quoi, pour faire de la, enfin, de la violence gratuite, mais bon, ça reste très kitsch.
Mick, ton avis général?
De quoi, de The Boys?
Ouais, enfin, par cet arc par rapport aux autres.
Bah, je trouve que c'est un ensemble. Le troisième tome, c'était plutôt pour installer cette histoire de complot avec le vice-président, etc. Il m'a pas plus dérangé que ça, si tu veux, parce que moi maintenant j'ai une idée globale, donc je pourrais pas non plus être super précis par rapport à ça, mais dans l'ensemble, The Boys, moi je trouve ça excellent, c'est-à-dire que ça se fout un peu de la gueule des super-héros, et je pense qu'ils seraient comme ça, les super-héros, s'ils existaient, à mon avis.
Voire
Ah
peut-être même pire.
oui,
Peut-être pire,
peut-être
ouais,
pire.
même.
Ouais. Là, je pense qu'il y aurait même plus de population autour, quoi.
Parce que même la phrase de Spider-Man du genre à grand pouvoir des grandes responsabilités, je crois que ça serait plutôt à grand pouvoir grande
Gros bordel.
corruption.
Mais
Oui,
je
bordel.
pense que exactement comme on a là dans The Boys, on aurait il y aurait quand même des gens qui se retrouvent avec des pouvoirs un peu comme la copine de Huggy, donc je vais toujours l'appeler comme ça parce que j'ai pas retrouvé son nom.
Ouais, mais même sur la fin, elle est pervertie elle-même, si tu veux. Ce
Non.
côté-là, un côté très fleur bleue où elle est très pure, et à la fin, elle a perdu cette candeur, quoi, qu'elle avait au tout début.
Ah oh non, je pense pas. Je pense qu'elle a atteint le point où elle a décidé d'envoyer chier, qu'elle s'est rendue
Oui,
compte
mais elle a,
que...
de nouveau, elle a perdu cette petite fraîcheur, cette petite candeur du début.
Ah,
Au début, elle était persuadée que c'était le plus grand héros de la Terre, qu'elle avait sa place. Maintenant, elle lutte un peu, quoi, elle lutte même pas, parce qu'elle remet à sa place, mais tu vois qu'elle a perdu une partie d'elle, quoi.
Mais du coup, avec ça, l'autre fille de l'équipe va peut-être la regarder d'un autre œil et va peut-être un peu plus être proche d'elle, en tout cas.
Ouais, bon, vu l'autre aussi, à mon avis, l'alcoolique de base,
Ouais, mais
je
est-ce
sais
qu'elle
pas.
boit pas pour oublier, justement?
Bah, c'est possible.
Voilà, enfin, non, je sais pas. Moi, j'ai aussi hâte de découvrir un peu plus sur ces super-héros et pas que sur l'équipe. Savoir un petit peu d'où ils viennent et le pourquoi des choses, quoi. Comme cette espèce de gars là qui gère l'équipe. Je sais pas si vous voyez de qui je veux parler.
Ouais, bah, de toute façon, oui, on le voit tout à fait, oui, c'est l'espèce de parodie de Superman, quoi, en fait.
Non, je parlais du mec VIP avec son
Ah
costard
oui, d'accord.
cravate.
Okay. Ah, celui qui reste dans l'ombre.
Ouais, voilà,
Celui qui n'a
celui-là.
pas de pouvoir, en fait.
Ouais, le pendant de Guy Ritchie, quoi, en fait.
Et qu'on
Donc,
voyait dans l'épisode 3, enfin dans le troisième volume, non?
voilà,
Voilà.
je crois que c'est le même, hein, ouais.
Oui, c'est le même.
Donc, ouais, c'est pareil, ça, j'attends de voir un petit peu où ça va. Donc,
Mais oui, en tout cas, il y a pas mal de possibilités encore à faire pour tout développer, puis encore taper encore plus fort sur les clichés des super-héros, on va dire.
c'est ça qui est bien dans son écriture, c'est que ça avance, on sent qu'il y a une direction générale. Mais malgré tout, un arc qui ne fait pas trop avancer les choses, mais bien fait comme ça, nous fait rire aussi, parce que c'est d'abord les personnages et ensuite le reste.
Oui, parce qu'il pourrait se contenter de faire une simple parodie de tous les clichés des super-héros, etc., sans pour autant faire une histoire attrayante et passionnante à côté. Et là, il y a les deux. Donc,
Voilà, c'est ça, c'est qu'autant les personnages principaux sont bons, que le reste de l'histoire et le monde autour est aussi intéressant et va dans une direction. Donc, quoi qu'il arrive, il a le choix, il a vraiment ouvert son truc et il n'y a pas de problème, quoi. Bien, bon bah je crois que là c'est
je crois
bon.
que ça sera tout.
Ouais, voilà, on va
Eh
finir sur
bien,
cette
ça.
bonne note. Avant de conclure, j'aimerais juste rectifier deux petites choses. L'image, enfin le logo que nous a fait
Alias.
Alias pour iTunes n'est pas encore en place en fait. Je me suis avancé un peu vite, on a eu quelques petits soucis techniques, ce qui fait qu'il n'est pas passé. Donc on est en train d'essayer de corriger le problème. Ce sera bientôt le cas. Donc bon. Voilà, histoire de remettre les choses comme elles le sont. Et je voudrais aussi remercier les gens qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes et qui nous ont mis des notes. Merci à vous. Continuez de nous mettre des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, de toute façon. Voilà, et puis nous mettre des notes, parce que c'est vrai que ça nous permet d'être mieux classés et donc d'avoir plus de visibilité et donc plus d'audience, puisqu'il y a plus de visibilité, c'est la chose logique. Donc, en tout cas, merci à vous. Je crois que vous voulez ajouter quelque chose peut-être pour la fin?
Bah, mettez, n'hésitez pas à réagir sur le site aussi, hein. Mettez des
Oui, bah comme
commentaires,
toujours, oui, bien sûr.
voilà.
Si vous voulez nous envoyer un email pour nous insulter, pour nous féliciter,
Ou
ou pour
pour
nous parler de Green Lantern.
même simplement pour poser des questions, voilà,
Oui.
n'hésitez pas.
Ouais.
Comme
Enfin bref.
d'habitude, l'adresse est podcast@comiccity.fr. Vous pouvez retrouver aussi le lien par le formulaire de contact par la page d'accueil du site. Vous voyez contact, vous cliquez et vous choisissez à quelle section ça va et vous envoyez votre mail. Bon bah sur ce, rien de plus?
Non, je crois
Non,
pas.
non, très bien. Alors, On se dit à d'ici une quinzaine de jours pour le Marvel. Ah non, peut-être pas d'ici 15 jours. Pour le mois de décembre, le planning n'est pas encore complètement fait. Ça va dépendre parce qu'il y a les fêtes et c'est pas toujours évident. Donc on verra bien. Vous aurez peut-être qu'un seul
Donc,
et gros
restez à l'affût.
podcast. Ouais, voilà.
C'est ce qui est le mieux.
Voilà.
Voilà.
Nous-mêmes, on ne sait pas encore, donc voilà. Ça fait très pro comme ça. Hein. Voilà. Sur ce,
c'est un peu Panini chez nous aussi.
Oh, pas d'insulte quand même. Pas déconner. Oh. Donc, à bientôt et comme d'habitude, portez-vous bien.
Bonne lecture.
Ciao. À bientôt. Was that?